Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce podcast bilan de l'E3 2011. Pour faire ce petit podcast, je serai en compagnie de le tyran Mordren et Mamiami.
Salut.
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 Et on va commencer tout de suite. Alors d'abord, je précise hein, quand même, on va pas tout détailler parce que sinon vous aurez droit à un podcast de 10 heures. Si vous voulez avoir des informations ultra précises, je vous renvoie au podcast qu'on a fait sur chaque conférence détaillée. Et voilà. Donc, on va commencer avec le gros événement de cette E3, c'est-à-dire la Wii U. La Wii U, je connais quelqu'un qui a l'air tenté par ça, il s'appelle Le Tyran, il va nous en parler tout de suite.
Ah bon, je suis tenté par la Wii U, moi. Je promets une nouvelle. Non, 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 je troll, mais effectivement, bon, ça m'a quand même piqué au vif. Donc, pour ceux qui se rappellent de la conférence, on s'est retrouvé dans une mallette chelou. On se demandait si c'était pas une extension de la Wii. Bah non, finalement, il se trouve que c'est bien et bien une nouvelle console, la Wii U.
Alléluia.
La Wii U, ce n'est pas le nom de la manette, c'est effectivement le nom de la console. La manette, comme la Wiimote, aura un nom plus tard. Et donc de ce qu'on a pu voir, apparemment c'était équivalent en puissance à une Xbox et une PS3. Donc ça va, c'est
Un peu plus puissant même,
un peu
apparemment.
plus. Bon, j'ai un doute hein, parce que même si effectivement la démo de Zelda qui était une démo technique, rappelons-le, avait l'air un peu plus belle que les jeux PS3 360, mine de rien, ce n'était qu'une démo technique. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Et ça, je veux dire, ça change tout quoi. Quand
Bah
t'as,
après ça
t'as,
c'est selon Nintendo, hein,
quand quand
après.
t'as quand t'as juste des décors à animer sur la démo, voilà quoi. Ça permet de faire. T'as la puissance de des processeurs, elle sert à autre chose que qu'à gérer l'IA quoi. Donc ça permet de faire des trucs un peu plus beaux. Mais en tout cas, bon, ça avait l'air correct. Quoi qu'il en soit, donc la manette, pour récapituler, elle permettra de jouer la télé éteinte. Et ça, c'est the feature de la Wii, qui d'ailleurs je crois te rend un peu sceptique, mon cher
Complètement,
ami.
mais bon, ça, il n'y a que moi, donc c'est pas grave. Passons.
Non, mais je pense que ça peut être sympa, tu vois. Genre, y a ta copine qui te casse les couilles pour avoir la télé, etc. Bah, voilà, tu lui donnes la télé, toi t'allumes ta console, et voilà, c'est très bien. Mais sinon, après, il faut voir que la manette, c'est un peu le couteau suisse, hein, n'est-ce pas, Mordren? C'est
Oui, c'est vrai. Donc, en gros, vous allez avoir une caméra. Un gyroscope, un micro, des haut-parleurs, enfin bon, tout ce que vous voulez, mais quand même
rien de plus
grande, mais
encore.
la grande, enfin ce qui nous plaît un petit peu plus, c'est que ça ressemble beaucoup plus à une manette traditionnelle, à savoir qu'il y a tous les boutons possibles et imaginables, contrairement à la Wiimote. Donc ça nous rassure un peu plus quand même. Et puis la grande fonctionnalité, c'est quand même l'écran qui est assez grand, 6 pouces.
Ouais.
De diagonale et avec une résolution pas si mal que ça en fait. Alors par contre, il est tactile, mais c'est single touch, donc pas de multi-touch à la iPad, iPhone et tout.
En même temps, comme je disais l'autre jour, vu qu'il y a un stylet, ça aurait été dur de faire du multi-touch au stylet.
Exactement. A priori, Nintendo n'a pas pour but d'en faire une tablette style iPad. Hein. C'est le but, c'est ce que ça serve au jeu.
Parce que ça
Donc,
ressemble quand même vachement à l'iPad, hein, au niveau du
oui.
design, t'enlèves les boutons, t'agrandis un peu l'écran et t'as la même.
Ouais. Sachant que quand même, moi j'ai mis des réserves parce que sur la distance à laquelle on pourra jouer de la machine, parce que apparemment ils ont annoncé une grande pièce. Ou une pièce avec un mur d'écart, tu vois, un petit mur fin d'écart pour que le signal y passe. Quand même, pour une console dont l'une des principales features c'est pouvoir jouer sans la téloche, je trouve ça fait un peu léger quand même. Hein. Je sais bien que c'est pas une console portable, mais il n'empêche que même si c'est pas une console portable, on devrait pouvoir y jouer dans son appart tranquillement. Hein. Donc
Ah, tu pourras, faudra
c'est
juste faire quelques
vraiment.
trous dans les murs à la masse, hein, mais pour que ça passe mieux, mais ça marchera,
Ils
t'inquiète.
disent que la distance est à peu près équivalente à la distance de jeu d'une Wiimote. Voilà. Donc ça, c'est pour être un petit peu
Pas.
petit. Mais
Non, mais.
ce qui est pas énorme non plus. Voilà.
Oui.
Bon, sachant qu'en plus, il y a des doutes sur le fait que la console puisse gérer plusieurs manettes avec écran comme ça. A priori, ils hésitent encore. Ce qui est certain en tout cas, c'est que la console gérera la Wiimote et que pas mal de jeux, il y a apparemment des jeux sont prévus pour gérer la Wiimote et la nouvelle manette. C'est une bonne nouvelle pour les possesseurs de Wii qui du coup vont pouvoir recycler leur Wiimote parce que
Ça commençait à chiffrer, hein. 4 manettes par Wii, la manette à 30 euros.
Mais je trouve voilà. Ça quand même un peu dommage, moi, parce que finalement, la Wiimote, on l'a vu, ça avait très rapidement ses limites. Hein. Donc
Ouais,
bon,
c'est...
heureusement, on aura la vraie manette à côté, mais bon.
Non, mais de toute façon, ça va faire comme les... Je veux dire, si la Wiimote, si c'est pas la manette de base, elle va être forcément pénalisée, je pense, à un moment ou à un autre. J'ai un doute sur le fait
Oui.
que les éditeurs tiers prennent à chaque fois en charge la Wiimote si c'est pas la manette de base. Hein, donc,
Bah déjà les jeux un joueur, les jeux, enfin il y a beaucoup de jeux gamers qui ne sont que un joueur donc qui seront forcément joués
Après,
avec la manette écran.
comme je l'ai lu ici et là, tout va dépendre de ce qu'ils vont mettre dans le pack de base. Hein. S'ils mettent la Wiimote dans le pack de base avec la manette,
Ça m'étonnerait.
ça sera pas la même. Mais après, j'ose même pas imaginer le prix s'ils mettent la Wiimote avec. Hein. Donc,
Ça va pas augmenter tant que ça le prix. Hein.
Oui, mais bon, je pense que déjà ça va passer très mal niveau prix parce que Nintendo a l'habitude de vouloir garder des marges sur ses modèles, contrairement à Sony ou Microsoft qui n'hésitent pas à
Bah,
vendre à perte.
après, oui, ils ont
Donc là, va
l'habitude de
falloir
garder.
faire un choix.
Attends, certes, ils ont l'habitude de garder des marges. Mais ça fait quand même longtemps qu'ils n'ont pas proposé une console à plus de 300 €, quoi. Même j'ai pas
C'est vrai.
souvenir. Il faudrait regarder la 64 et la Super
Ouais.
NES, mais en tout cas depuis le GameCube, voilà quoi. La GameCube, c'était pas cher. La Wii, elle n'était pas non plus.
Ah mais
Même
là, oui,
si.
il n'y a aucune évolution
Oui,
technique.
non, 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 mais ok, on est d'accord. Mais à chaque fois, ils se démerdent pour avoir un prix qui fasse au moins illusion, qui paraissent pas chers par rapport aux concurrents, tu vois. Donc,
Oui. En termes de chiffres, c'est toujours moins cher que la concurrence. Donc là, va falloir faire très attention à se placer de façon très très agressive par rapport aux concurrents qui sont finalement dans leur milieu fin de vie, qui commencent à baisser de prix eux aussi. La PS3 et la 360 commencent vraiment à baisser de prix. Et si la Wii U arrive avec un prix qui est ne serait-ce que supérieur de 50 €, ça pourrait parler négativement dans la tête des gens, à mon avis.
Ah ben déjà, moi je pense qu'elle va se placer au niveau du prix quand tu au-dessus, parce que quand tu vois le prix d'une Xbox 360 arcade, franchement, les Xbox, on va dire l'entrée de gamme, je vais pas dire qu'ils te les donnent, mais vraiment c'est très difficile de faire en dessous au niveau prix, hein.
Ouais, mais ce qu'ils te
Même,
disent pas, c'est que c'est une Xbox au rabais, quoi.
attends, oui, bah
Non,
oui,
mais,
bah bien
non, mais en
sûr.
même temps, je veux dire, la Xbox, elle coûte plus rien à produire aujourd'hui. Hein. Tu vois le hardware qu'il y a dedans,
Bah oui. Ou même
c'est...
une PS3 qui est vue comme une console super chère, bah elle a baissé petit à petit. Donc si
Bon,
la
là, tu vois,
Wii U,
250 € maintenant, la PS3, hein, je veux
bah
dire.
voilà, alors si la Wii U est à 250 euros, ce qui n'est pas
Ouais,
du
bah,
tout cher pour une console neuve, bah ça collera quand même avec l'image de la
ouais, d'ailleurs,
PS3 qui ressemble à une console chère.
petit pronostic, à votre avis, à combien il sera?
350. Moi, je
Moi je
parie
vois
sur...
bien 350.
Moi, je pense que 350, c'est trop cher. Je pense qu'ils passeront pas la barre symbolique des 300 €, ça sera 299 ou un truc comme
Ouais.
ça.
Mais après,
C'est vrai
je
que ce
crois
soit
que c'est
ça
le
pour
site
certains.
américain Zavvi qui avait fait des premières précommandes avec des estimations de prix.
Oui, non mais ça, mais en même
Mais
temps,
là, en
l'estimation
quelques
de
heures,
prix,
ça avait déjà varié. Donc,
le tout premier prix qu'ils avaient sorti, c'était 300 livres, je crois. Un truc comme ça.
Oui, ils sont vite
300 livres.
passés à 400 à un moment. Moi, une fois que j'avais été voir.
Bon,
Enfin
on verra
bon,
bien.
ça n'a rien à voir, enfin je veux dire, c'est pas... Ça n'a rien d'officiel et c'est
Oui.
juste histoire de s'ils peuvent grappiller de la marge là-dessus et des précommandes, ils le feront, hein, mais ça ne
Quoi
veut
qu'il
rien.
en soit, sinon niveau jeu, vous en avez pensé quoi, vous?
Bah on va dire que pour une fois, ça s'axe pas mal sur le multisupport. On va dire que la Nintendo, bah, ils ont noté les erreurs qu'ils ont fait, ils ont écouté les critiques des joueurs, incroyables. Donc on aura du multisupport et tous les grands jeux qui auparavant se jouaient exclusivement sur PC, PS3 360, voire PS3 360, auront leur version Wii, pour la plupart.
Oui, et ce qui est bien de avoir, c'est que au niveau de d'un catalogue plus hardcore gamer ou gamer, on est vachement servi là-dessus au niveau des trailers qu'on a vus, notamment Darksiders 2, Assassin's Creed, BioShock qui devraient faire leur arrivée sur Wii U. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes pour Nintendo et pour les gamers.
Mais
Pour réussir à vendre la console auprès des gamers quand même. Parce
ça,
qu'on
c'est à
sait
double
que
tranchant aussi, hein, parce qu'ils vont pas pouvoir vendre une console sur des portages.
Peut-être,
Attends, en même
mais
temps, j'ai envie... Non, mais attends, là, une seconde. En même temps, j'ai envie de dire, la PS3 et la 360, t'as vu beaucoup d'exclusivité, toi? la PS3, oui.
Parce que, non, moi, je suis désolé, là, la Wii U, de toute façon, on le sait, quoi qu'il arrive, elle aura les jeux Nintendo. Quoi qu'il arrive, au niveau exclu, je pense que Nintendo va piler tout le monde parce qu'ils ont
Non.
plus de studios que tout le monde là-dessus. Sony n'a pas autant de studios que Nintendo. Microsoft, n'en parlons même pas. Je pense, moi, ils ont moyen, s'ils y mettent les moyens, vraiment de faire la différence, quoi.
C'est ce qu'il
Ouais,
disait.
enfin,
Ils n'ont pas besoin d'un contenu éditeur tiers.
Sony
Oui,
a
vas-y.
la force de faire des exclus qui touchent déjà tous les genres. Parce qu'on a, par exemple, quoi qu'on dise sur ces séries, on a du Motorstorm sur la course, du Gran Turismo 5, du Infamous, du Resistance, du Killzone, du Uncharted. Enfin bref, on a des exclus qui touchent un peu tout. Alors que si on regarde du côté de Nintendo, franchement, t'aimes pas Mario, t'aimes pas Mario Kart, ou t'aimes pas les plombiers
Ah mais
moustachus.
ça, non mais ça c'est pareil que d'habitude, hein. Je suis d'accord. Mais justement, l'intérêt là, c'est qu'en plus tu vas avoir les éditeurs tiers qui vont débarquer dessus. C'est ce qui fait toute la différence, quoi. T'as le beurre et t'as l'argent du beurre, quoi. Et les miches de la
C'est
crémière.
ça.
Et voilà. Moi c'est tout ce que je leur demande, hein, qu'ils se démerdent pour avoir des jeux tiers en plus de leur jeu, de leur licence à eux. Voilà quoi, tout le monde sera content. Là, tout le monde sera content, je veux dire. Après, les exclus d'éditeurs tiers, de toute manière, quel que soit le constructeur, voilà quoi, à moins qu'il signe un gros chèque ou qu'il y ait des circonstances techniques, je veux dire, aujourd'hui, les exclus, de toute façon, ça n'existe plus pratiquement. Donc, sauf quand c'est le constructeur qui se les fait. Donc, il n'y a pas un
Oui, ils
secret, hein.
sont.
Je veux dire, on peut pas reprocher à Nintendo. De pas avoir d'excuses d'éditeurs tiers, alors les autres, ils en ont pas, quoi.
Oui, ils étaient très clairs là-dessus, hein. Ils iront jamais chercher la petite bête pour avoir une exclue éditeur tiers, sachant qu'ils ont toutes les exclus finalement, c'est made in Nintendo. Ils n'ont pas besoin d'aller grappiller autre part, hein, de
Hein,
toute
en même
façon.
temps, quand on voit Microsoft qui lâche des millions et des millions pour des exclus temporaires de DLC, ça motive pas à aller faire la guerre à ça, hein.
Il faut aussi compter sur le fait que la Wii U, qui donc est prévue pour l'année prochaine, c'est la première de la prochaine génération, et que si j'ai bien compris, Sony et Microsoft attendent 2014 voire 2015. Et donc là-dessus, Nintendo finalement, ils peuvent se permettre un peu, par exemple au niveau du prix, bah, de se faire plaisir, hein, et de rebaisser le prix une fois que les deux autres seront sortis. Et c'est vrai que là, c'est une vraie force. Et pareil au niveau de comment de l'arrivée des éditeurs tiers chez eux, c'est ils vont avoir une console techniquement plus puissante avec des graphismes plus beaux et une façon de jouer un peu différente que face à donc de consoles en fin de vie. Et on peut dire que pour les 2 à 3 prochaines années, Nintendo part avec quand même beaucoup d'avance sur ce niveau-là,
Et
quand on prend
puis
la Wii.
même, je sais qu'il y a beaucoup qui disent que oui, dès que les autres vont annoncer les prochaines machines, ça y est, il y aura plus de jeux portage sur Wii U. Moi, je suis pas d'accord, parce que je voudrais rappeler à certains tout de même que la PS2, quand la PS3 et la 360 sont sorties, elle s'est pas éteinte du jour au lendemain, hein. Contrairement à la GameCube, par exemple, tu vois, qui elle,
Et la Wii qui est en bonne voie, on en reparlera
oui,
tout à l'heure.
on en reparlera tout à l'heure. Il y aura toujours des jeux qui vont continuer à sortir, à mon avis, au moins sur PS3, et continueront de sortir en même temps sur Wii U. Donc il faut pas non plus, faut pas croire que du jour au lendemain comme ça, il va plus rien avoir dessus. D'autant qu'en plus, Nintendo a un avantage, je pense, sur Sony et Microsoft, c'est que on l'a bien vu, les cycles de ces consoles sont beaucoup plus courts que ceux de Sony et Microsoft, hein. La Wii, finalement, elle aura duré combien de temps, là? Elle aura duré quoi, 5 ans?
Cinq ans.
Et elle aura été jouée un mois par les gens qui l'ont acheté, après elle aura fini au placard.
Là, elle aura duré 5 ans. Sony, s'ils sortent en 2014, ça fera un bail qui sera sorti la PS3. Je veux dire, c'est pas les mêmes cycles de console non plus, quoi. Donc je pense qu'il a beaucoup critique sur ça, mais je pense qu'il a finalement, il a joué peut-être pas si mal que ça, quoi.
Et d'ailleurs,
pour une fois.
Les prochaines consoles de Sony et Microsoft sortent entre guillemets dans tellement longtemps que ça se trouve, si la Wii U marche énormément grâce à son principe de manette écran, pourquoi pas imaginer que Sony ou Microsoft pourraient copier à la limite comme ils ont copié avec le PS Move et Kinect. On peut peut-être aussi imaginer ça si la Wii U marche très bien.
Bon, sachant que Sony, quand même, avec la PS3 et la PS Vita, propose finalement quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que veut faire Nintendo, mais finalement en plus évolué. Alors, c'est pour ça qu'aussi je pense que Nintendo ne va pas faire un prix trop élevé avec sa Wii U, parce que en face, t'as la PS3 et la PS Vita. Et que, mine de rien, la PS3, le combo PS3 PS Vita propose quelque chose de plus évolué, certes beaucoup plus cher, je suis d'accord.
Et difficilement,
parce que mine de rien, ça te revient à 500 euros minimum, quoi.
Et ça va être dur de communiquer là-dessus pour Sony, à mon avis. Hein. Les gens comprendront pas au début. Déjà qu'on voit qu'ils ont du mal à comprendre le Street Pass de la 3DS.
Non, je pense que c'est plus facile à faire comprendre que le Street Pass de la 3DS. Je veux dire, tu fais une pub où t'as le mec qui est en train de jouer sur sa console, qui fait le transfert sur sa PS Vita et qui joue dans le métro. Je veux dire, monsieur, tout le monde, il comprend, hein, ce que ça veut dire.
Oui, mais ça fait peur d'acheter deux consoles comme ça. On se dit, il y aura peut-être un truc qui marche pas. Enfin bref.
Mais
ça,
c'est pour ça que je veux dire que la feature principale de la Wii U, qui est quand même le fait de pouvoir jouer, éteindre sa télé et jouer ailleurs que devant sa télé, pour qu'elle se vende bien, je pense qu'il va falloir qu'il calcule bien le prix, tu vois, pour que ça ne soit pas trop cher non plus et que les gens se disent ouais, à ce prix-là, enfin ceux qui sont intéressés par la feature en tout cas, ouais, à ce prix-là, je préfère me prendre une Vita en plus de ma PS3, tu vois. Encore faut-il avoir une PS3. Mais bon, en tout cas en Europe, quand on voit comment la PS3 marche, je veux dire, après la Wii, c'est la console qui marche le mieux. Hein, donc,
Et elle monte, voilà. La PS3 sur tout ça.
Elle monte. Donc sinon, pour terminer là-dessus, il faut savoir donc que le design de la console qu'on a pu voir, hein, il a fallu batailler pour voir ce design, il n'est pas définitif. Hein. On a pu voir quand même au niveau des branchements, etc. Il y aura du HDMI, etc. Donc pour une fois, Nintendo a l'air d'avoir fait une console à peu près de son temps, je dis bien à peu près.
Qui marchera en 1080p, c'est confirmé.
Sachant que la manette devrait fonctionner en Wi-Fi, donc il y aura pas normalement de branchement. On ne sait pas d'ailleurs s'il y aura des
batteries.
Il y aura
une batterie.
C'est confirmé, il y aura une batterie. Par contre, on ne sait pas au niveau de la connexion Internet s'il y aura on pourra se brancher en Ethernet. A priori, ce sera que du Wi-Fi. Hein. Il y a des rumeurs qui parlent que la console sera plus Wi-Fi.
Au pire, c'est pas un problème. Hein.
C'est pas un problème non plus. Je veux dire, 99% des gens n'ont pas envie de s'emmerder avec un câble. Hein, donc,
Justement, en parlant d'Internet, ils insistent vraiment sur le fait qu'au niveau du online, la Wii U sera beaucoup plus intéressante que la Wii qui avait finalement creusé sa tombe au niveau du online là-dessus. C'est le multijoueur sur le même écran. La Wii U devrait pouvoir changer ça, notamment avec tous ces jeux qui se jouent exclusivement en online et plus dans le même canapé.
Après, c'est ce qu'ils disent. Hein. Moi, j'attends de voir ce qu'ils m'ont montré.
Oui,
bien sûr.
Par exemple, déjà, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire des choses, mais ils ont rien montré. Hein. Alors que, par exemple, Sony, avec la PS Vita, a quand même annoncé des trucs vachement concrets au niveau du communautaire, avec, mine de rien, un chat vocal. Franchement, moi, un chat vocal sur les consoles portables, je trouve ça plus qu'appréciable. Un vrai système communautaire, apparemment, qui sera assez similaire de ce qu'on a pu voir comme feature à Steam. Enfin bon, voilà, c'est...
Mais
il y a vraiment la concurrence en face. Ça envoie du lourd.
Ouais, mais la concurrence, en fait, c'est que Sony, sa PS Vita va sortir là très bientôt, alors que la Wii U, elle sort 2012, et je pense que ce serait plus fin 2012 que mi-2012.
Donc, ouais, d'ailleurs, globalement...
Plus de communiquer sur la manette, plus que sur toutes les fonctionnalités, et de montrer, en fait, le potentiel de la console, en fait.
Bon, par contre, pour terminer sur la Wii U, moi je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve quand même que pour une console dont on disait qu'elle aurait pu être présentée l'année dernière,
Oui.
elle avait l'air pas du tout fignolée, quoi. C'est
Oui.
la console en
Oui.
elle-même, même si on se doute qu'ils l'ont pas montré pour le plaisir du marketing, la console en elle-même, elle avait pas du tout fignolée. Il y avait aucun jeu Nintendo présenté, enfin à part les petits jeux à la con dessus, mais sinon les gros jeux vu Nintendo, moi j'en ai pas vu, hein. La démo de Zelda, c'était une démo technique comme la démo de Ganondorf avec Link quand ils ont présenté la GameCube à l'époque. Il y avait rien, c'était pas, ça avait pas l'air du tout fignolé, quoi.
Alors,
C'est
est-ce qu'ils en gardent sous le pilier pour le Tokyo Game Show ou est-ce
Oh oui.
qu'ils ont
Non,
été un peu pris
parce
par le
que
temps?
Nintendo n'est jamais au Tokyo Game Show. Ils ne
Bah
sont jamais
ouais,
au Tokyo, ils ne sont
peut-être
jamais au
Artaud.
TGS. Ils ne
Donc
sont jamais au TGS. Jamais, 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 jamais. Donc
Par contre,
peut-être
ils
ils
vont
en feront une
faire leur
conférence.
propre événement, donc
Ouais, ils font sûrement leur propre événement, donc là il faut voir ce qu'ils présenteront.
Donc dans cette conférence Nintendo, on a aussi parlé beaucoup de 3DS et chez Sony, on a parlé de PS Vita. Finalement, c'est un peu l'avenir du jeu de console portable, on va dire ça comme ça. Et là, vient l'heure, pas du bilan, c'est un peu bête, mais il y a eu beaucoup d'annonces sur ces deux consoles. Et finalement, la confrontation va être indéniable, déjà au niveau du prix, où Sony a fait très fort par rapport à la technologie de la console et le prix qui sera plus qu'honorable, hein. Est-ce que vous voulez en parler plus longuement?
Alors, moi, ce que j'ai à dire dessus, c'est que pour moi, niveau jeu, c'est Nintendo qui a présenté le plus de jeux, clairement.
Alors aussi, la
C'est-à-dire,
console est déjà mise en route, hein.
ouais, elle est déjà mise en route, etc. Mais c'est eux qui ont présenté le plus de jeux. Par contre, au niveau des features de la console, au niveau du prix, etc., pour moi, Sony a mis une énorme baffe à Nintendo. Donc, un partout, balle au centre. De toute façon, pour moi, les deux consoles sont trop chères, mais je pense que pour le moment, Nintendo a un avantage parce qu'ils ont les jeux et je pense que quels que soient les features, c'est les jeux qui comptent. Mais, mine de rien, en face, Sony a une architecture qui tient vachement la route et dès que les jeux vont commencer à arriver, ça risque de faire mal.
On va dire les prix pour rappeler, ce sera 249 euros pour la version Wi-Fi et
Soit le même prix que la 3DS.
voilà, c'est ça qui est très fort et 299 euros pour la version 3G. Alors là, juste je précise, encore une fois, on se fait
3G et
royal.
Wi-Fi.
Oui, 3G Wi-Fi bien sûr, hein, les deux. Encore une fois, on se fait royalement enfler parce que c'est le même prix en dollars, enfin le même prix.
Non, non, non,
C'est
attends, faut.
249 dollars.
Faut...
Oui,
Ah
c'est
non, après, ce qu'il faut voir, c'est que les prix donnés en dollars, ils sont hors taxe. Hein. Faut pas oublier ça. Les prix donnés en dollars sont hors taxes. Bon, même si tu ajoutes les taxes, après ça dépend parce que aux États-Unis c'est pas les mêmes taxes en fonction des États
Oui.
en fait. Hein. Donc faut voir que voilà, ça sera bon. Après même si tu ajoutes les taxes, généralement c'est plus cher chez nous, mais c'est pas non plus faut relativiser un peu quoi.
Oui,
Tu
mais
sais bien que
quand même. C'est sur le papier, ça fait quand même un peu mal à force. Mais bon, finalement des prix bas, ça faut le dire. On attendait peut-être pas forcément aussi bas. Bon, on pouvait le prévoir qu'ils allaient être agressifs par rapport au niveau des prix, mais comme tu as dit tout à l'heure, tiens, ça fait super mal à Nintendo, quoi. Moi, j'en connais pas mal qui hésitaient à prendre une 3DS. Ben maintenant, ils se disent, on va peut-être attendre voir ce que la FGP va offrir à force.
C'est exactement mon cas, oui. Parce que moi, je suis
Voilà.
toujours très très intéressé par la 3DS en fait. Et bon, moi, vu que j'aime bien les licences Nintendo, forcément, j'ai toujours une petite tendance à aller voir du côté des consoles de portables de Nintendo. Le problème, c'est que avec la PS Vita, Sony a vraiment tapé un grand coup avec des fonctionnalités et puis une technologie qui est finalement, absolument énorme pour une console portable.
Ouais, mais
Et
voilà
puis,
quoi, je veux dire, attends, on récapitule.
ouais.
Chat vocal, outil communautaire à la Steam, transfert des jeux PS3 sur Vita,
Ouais.
possibilité de jouer avec les joueurs PS3 en ligne, Les contenus communautaires des jeux comme Little Planet qui ont été faits sur PS3, tu y accèdes direct. Enfin voilà quoi, ça fait mine de rien, ça fait plein de trucs. Hein.
Et au niveau fort. graphique, enfin technique, c'est absolument, c'est bluffant,
monstrueux pour le
portable. Et même en plus, je pense que là où ils sont en train de bien jouer, c'est que je suis persuadé qu'à un moment ou à un autre, ils vont récupérer les jeux qui sortent sur téléphone portable. Alors que la 3DS ne pourra pas.
Ben oui, forcément
parce que
multitouch.
Niveau technique, elle ne, non, mais déjà multitouch. Et en plus, niveau technique, je suis désolé. Bon, même les Angry Birds, etc., je pense qu'ils vont sortir sans problème sur 3DS.
Oui.
Encore que là, c'est pas tant une question de puissance que de, est-ce que le moteur va tourner dessus, etc. Donc on, enfin, c'est autre chose, c'est une question de middleware, c'est assez compliqué. Mais, par contre, niveau technique, moi je suis désolé, il y a certains jeux qui ne tourneront pas sur 3DS, qui tourneront sur Vita. Donc, moi je pense que Sony a très bien joué son coup. Après, il y a une problématique qu'on n'a pas évoquée, c'est est-ce que finalement les gens vont acheter une console portable et s'ils vont pas finalement acheter des téléphones ?
Bah là, j'ai envie de dire oui. Pour moi, c'est de toute façon, on dit que la 3DS se vend mal, mais alors là, attention avec de gros guillemets, les gens se sont directement enflammés là-dessus. Mais
on dit qu'elle se vend mal, mais moi j'ai fait la comparaison. Effectivement, sur 3 mois, la DS avait fait 1 600 000 et quelques, et la 3DS a à peine dépassé son million, effectivement. Mais je suis sûr que si tu compares avec la GBA, je veux dire, c'est tout à fait respectable par rapport à une Game Boy Advance. Hein,
Voilà. Mais après, à long terme...
C'est pas un four, voilà, c'est ça qu'on veut dire.
Mais oui, de toute façon. Donc, pour finir ma phrase, c'est surtout que le marché, à mon avis, des consoles portables va, à terme, être pas mal menacé par le marché du jeu sur portable, hein, sur téléphone portable. Ça, c'est clair et net. Hein. Pour revenir à la PS Vita, là, ce qui fera aussi un argument de vente, en plus, par rapport à la 3DS et au portable téléphone, c'est que t'as une PS3, ça te fait une bonne raison d'acheter la PS Vita. Là aussi, ils ont fait, bah toi Mordred, justement, qui a une PS3, qui hésite avec la 3DS, quand tu vois toutes les features, dire, ça peut être un argument, hein, quand même.
C'est sûr. Bah, c'est moi, ce qui m'a toujours fait rêver, c'est d'acheter un seul jeu et de pouvoir y jouer sur plusieurs consoles, en fait. J'ai toujours rêvé un jour, mais c'est impossible, hein, je rêve éveillé, d'acheter ma version Xbox 360 de je sais pas quoi, d'un jeu multi-support, mettons Red Dead Redemption, et de pouvoir y jouer, je sais pas, hein, sur la PlayStation 3, via un code, enfin bon, bref. Et ça, finalement, le multi-console, finalement, ça c'est un truc qui me fait rêver, de pouvoir emmener ma sauvegarde de, je sais pas, MGS, depuis ma PS3, sur ma PS Vita ou la PSP, puisque c'est faisable aussi. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse vraiment. Donc finalement, ça c'est pour moi la features la plus intéressante, selon moi, au-delà du côté technique de la PS Vita, qui est vraiment très intéressant.
Donc finalement, et toi, mamie, ça te fait rêver toi?
Moi personnellement, je trouve qu'on a un peu affaire à une redite, c'est-à-dire que il y aura toujours les mêmes problématiques de base qui ne seront pas changés, c'est à savoir, là pour le coup on peut vraiment parler d'exclus, vu que la 3DS a tous ses jeux, Nintendo avec Mario et compagnie, tandis que Sony avec sa PS Vita, tous ses jeux qui tournent, enfin toutes les franchises qui tournent sur PS3. Et en fait, j'ai l'impression de revoir un peu ce qui s'était passé entre la DS et la PSP, à savoir que celui qui voudra absolument jouer à Luigi's Mansion 2, faudra qu'il ait la 3DS. Donc il achètera sa 3DS, tandis que celui qui veut jouer à Uncharted, il aura sa PS Vita. Et donc, au final, malgré toutes les avancées techniques, la 3D pour Nintendo, les deux écrans tactiles pour
PS Vita,
et tout ce qui va avec, au final, ce seront plus les jeux qui feront la différence, tout du moins pour moi. Ah.
Oui, comme toujours.
Moi, je suis d'accord. Même si les features, c'est les jeux qui comptent.
On achète des jeux, pas une console. C'est
voilà.
Ça, en fait. Hein.
Donc, bon, malgré le prix qui est finalement le même pour les deux, au final, le joueur, lui, qui est un processeur deux fois plus puissant à gauche ou à droite, s'il a pas son jeu qui tourne dessus, il s'en fout. Donc, bon, après, c'est vrai qu'au niveau du jeu nomade, on a plus tendance à avoir des jeux portables, mais moi je préférais toujours avoir bon, je dis un exemple, hein, le premier jeu qui me vient en tête, si je veux Pokémon, bon bah il me faut la 3DS, quoi. C'est pas avec mon Black Magic que ça marchera. Donc au final voilà.
Quoique
c'est plutôt à la préférence du joueur et surtout des jeux. Pour moi.
La voix de la sagesse a parlé.
Donc finalement, je vais vous poser une question très simple. Alors là, pas d'explication. Hein. Je veux juste un nom, comme ça, sinon on va rester 2 heures sur le sujet en délibération. Je vais vous dire PS Vita ou 3DS. Je sais qu'on n'a pas beaucoup d'informations, mais vraiment, si vous faites un peu les analystes, selon vous, laquelle sera la plus bénéfique à acheter en fonction de vos goûts personnels? On va commencer avec Mamie pour que tu continues dans ta lancée.
Oui,
juste un nom, c'est ça qui est très dur et qui est très drôle en même temps.
Je dirais 3DS.
D'accord, tirant.
Ni l'une ni l'autre.
Elle est trop chère.
Bon, si on te l'offre, tu prends laquelle?
Vita. Parce que bon, Nintendo quoi.
T'aimes pas Nintendo? D'accord.
Oh, non, mais je l'ai déjà dit, moi les jeux Nintendo, voilà.
Ouais, on va pas s'étendre là-dessus. Bref, Mordren.
Ouais, moi je suis très embêté.
joue à Pikachu, j'ai pas fait.
Un cas de conscience.
Non, mais le problème c'est que j'adore les licences Nintendo et ce qui est proposé au niveau technique par la PS Vita. Voilà, je radote. Donc bon, juste pour les jeux, ce sera la 3DS.
D'accord, donc moi ce serait la PS Vita juste pour équilibrer, on va dire.
Oh, c'est beau.
Ouais, voilà. Donc, on va continuer avec un autre phénomène auquel on a eu le droit, très rapidement passé dessus. C'est que depuis des années, mais non, c'est assez récent, mine de rien, c'est qu'on a de plus en plus de collections de vieux jeux qui sont remis au goût du jour, et cette E3 n'a pas manqué, notamment chez Konami, où on a eu droit à 3 collections, une collection MGS, une collection Zone of the Enders et une collection Silent Hill. Alors, vous en pensez quoi de ce recyclage? C'est bien, on est écolo?
Ça peut avoir un intérêt si les jeux sont introuvables et que voilà, bon, on n'a pas forcément les consoles. Après, je veux dire, le problème, c'est que quand moi, à la limite, qu'ils en fassent, ça me pose pas plus de soucis que ça. Ce qui me pose problème, c'est qu'ils en fassent et qu'il n'y a rien à côté.
Voilà. Oui, c'est
ça. Et là, en l'occurrence, il n'y avait rien à côté.
Non, juste, Peace Walker, moi qui ai pas de PSP, ça va être sympa de pouvoir le faire sur PS3. C'est juste ça.
Voilà. Mais c'est toujours sympa pour les joueurs qui ont jamais eu la possibilité de jouer à ces jeux-là. Ouais. Après, pour ceux qui y ont joué, forcément, c'est moins intéressant. Je rejoins le tyran là-dessus, c'est que quand il y a rien à côté, c'est vrai que ça fait un drôle d'effet quand même.
Mais ce qui fait peur quand même, c'est que quand on voit le pourcentage de jeux remake depuis quelques mois qui grimpe, on se dit finalement, parti comme c'est parti, on n'aura plus que ça. Hein. Bon, je caricature, mais il y en a vraiment de plus en plus. Hein. Ça fait du fric, ça coûte pas cher à faire.
Bah, quand c'est bien fait, ça peut coûter de l'argent quand même.
Oui, mais moins qu'un jeu quand même.
Ce qui est bien avec les compilations, c'est comme on l'a dit il y a très peu de temps là. Moi par exemple, qui adore la série Metal Gear, mais qui pour Halo avait acheté toutes les Xbox, grâce à la Metal Gear Collection, je vais pouvoir me rattraper un peu sur la 360. C'est vrai qu'il y a beaucoup de compilations Sony, malheureusement, qui ne tournent que sur PS3, tandis que celle-là, bon bah comme elle est multi-support, ça permet aux fervents défenseurs de l'une ou de l'autre de pouvoir un peu jouer aux jeux qu'ils aiment aussi. Donc là-dessus, qui en est
ça, plus, c'est vraiment limite,
c'est bien.
Donc finalement, vous, ça vous pose pas énormément de problèmes, que ça n'entache pas le reste.
Moi, ça me pose pas de problème parce que de toute façon, ça existe depuis des années sur PC, sur qu'on appelle pas ça des remakes ou des trucs, parce que sur PC, mine de rien, les jeux avant, le problème c'est qu'il fallait les bidouiller. Maintenant, t'as des mecs qui font en sorte que ça tourne. Donc moi, ça me pose pas de problème que les vieux jeux soient disponibles et qu'on puisse les acheter. Après, moi, ce qui me fait un peu peur avec ces compilations, c'est que j'espère que d'une console à l'autre, on ne va pas nous entuber et qu'on conservera les jeux qu'on a achetés dans leur putain de service. Parce que ça, c'est le truc que je n'accepterai pas, par contre, c'est de repayer pour des compilations alors qu'il leur suffit de porter les jeux pour qu'ils tournent sur leur nouvelle machine. Ça, je ne, n'accepterai pas de repayer une compilation.
Ça, on a le temps de le voir.
Je n'accepterai pas ça, quoi. C'est, bon, je sais que là, je vois loin, hein, mais moi, je, sur PC, si j'accepte de payer, c'est parce que je sais que même si un jour, il y a un souci technique, sur PC, on est des bidouilleurs, donc il y aura toujours quelqu'un qui te sortira un truc pour te faire tourner ton jeu. Mais par contre, sur console, c'est les constructeurs qui doivent assurer le service après-vente, et ils ont intérêt à l'assurer, parce que là, sinon, ça va ruer dans les brancards.
Mais c'est, ouais, c'est encore un grand mystère, hein, de ces choses-là. Pour le transfert des jeux que t'as acheté, c'est, ouais, c'est encore un grand souci, je pense.
L'avenir fait peur. On va dire ça comme ça.
J'ai peur, Mikael.
Alors justement, quand on parle d'avenir qui fait peur, eh bien, si on suit à la dernière conférence Microsoft, parce que selon moi, c'est chez eux que c'est le plus marquant, c'est quoi le truc? La moitié des jeux Microsoft, enfin, la moitié des jeux sur Xbox seront jouables qu'avec Kinect, l'autre moitié offrera de la compatibilité, en fait. C'est ça, non?
Non, je te corrige. L'autre moitié offrira des gadgets.
La compatibilité gadget, ouais.
Non, mais surtout qu'en plus, la fameuse compatibilité Kinect, je me suis fait la réflexion après le podcast, le dernier podcast qu'on avait fait, mais en fait, la caméra, elle sert à rien. Kinect, ils auraient pu sortir un micro, ça aurait très bien marché, vu que tous les trucs compatibles qu'on a vus, c'était des trucs à la voix. Qu'est-ce que t'as besoin d'une putain de caméra pour qui sort le micro?
Ça se trouve, c'est que ça lie sur tes lèvres, en fait, en plus, tu vois, pour encore mieux détecter la voix. Ils vont sortir un Nexus comme ça.
C'est ça, en fait, la fameuse compatibilité Kinect, ce n'est même pas une vraie compatibilité, quoi. C'est un truc qui utilise la voix, quoi. C'est, ce qui pour moi n'est même pas une vraie compatibilité. En fait, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas du tout comment utiliser ça dans leur jeu. Et du coup, c'est des trucs au rabais comme ça, à la Mass Effect, où tu donnes des ordres. Enfin bon.
Ouais, c'est mais vraiment, tu choisis tes dialogues. Wouh!
Blague à part, c'est quand même quelque chose qui, si ça marche, ça peut être intéressant quand même.
Ouais, mais perso, dans un Mass Effect, je me vois mal dire les paroles, avoir le mec qui les redit derrière.
Non, je suis d'accord sur le papier, c'est intéressant. Mais même si c'est intéressant, est-ce que tu vas payer 150 euros parce que c'est
Non, mais bien sûr que non.
Ah, ça, voilà. Ça, c'est
moi, je suis désolé. L'argument. S'il n'y a pas un jeu qui exploite vraiment le truc, voilà, et qu'il fasse pas juste, ouais, je vais donner des ordres à machin, moi je vais pas claquer 150 euros pour un gadget, je suis désolé. Il faut pas déconner non plus, je m'appelle pas Crésus, quoi, faut arrêter.
Il a beau être joueur PC.
C'est un petit peu le souci qu'on a relevé avec Kinect, parce qu'on on attendait quand même des jeux gamers, enfin, des jeux qui pourraient nous donner envie d'acheter Kinect, et le problème c'est que c'est pas arrivé, en fait, avec la conférence Microsoft. Malgré l'annonce d'un fable sur Kinect, mais qui finalement n'a rien d'intéressant.
Limite, le trailer et la vidéo avant était plus intéressant que le jeu.
Ah bah largement. Pour moi, il n'y a pas débat. On avait encore un peu d'espoir avant, et quand le jeu a démarré, non mais.
Non, on va même dire que pour Kinect Star Wars, qui est absolument pas convaincant, voire pire que décevant.
Après on tape sur Kinect, mais je veux dire, pour le move, c'est la même.
Ah bah oui, justement, moi je trouve que beaucoup ça passe sur un peu mieux.
Ça passe pas un peu mieux, ça sert à rien. Je veux dire, à part No More Heroes qui est un portage Wii, à quoi tu vas jouer au move?
Il y a du Virtua Tennis, il y a du Killzone, il y a pas
Attends,
mal de
Virtua,
jeux qui vont
Virtua être... Tennis, c'est un gadget, c'est tout naze sur Virtua Tennis, faut arrêter. Franchement, c'est
Ouais, mais c'est, moi, c'est ça te fait pas chier, c'est ça. C'est ça le truc, parce que Kinect, ça fait vraiment chier, on peut dire ça comme ça. Ça va occuper pas mal de développeurs qui vont s'amuser à faire quelques petits jeux Kinect, et ça fait quand même pas mal chier, alors que le PS Move, bah, d'un côté, au pire, tu t'en sers pas et voilà.
Mais là, on accuse mieux. Non, moi, je suis désolé. Pour moi, si Microsoft n'arrive pas à sortir des jeux autres que qu'il a mis le paquet sur Kinect, là, c'est parce que de toute façon, les studios internes, ils ont pas tant que ça. Ils ont pas, je veux dire, ils ont pas la puissance de feu d'un Sony, d'un Nintendo, ça on le sait très bien. Donc, ils ont sorti un accessoire, donc le peu de studios qu'ils ont, ils bossent dessus. Et le problème, c'est qu'ils ne peuvent. Le problème qu'ils ont, c'est qu'il faut qu'ils aient d'autres studios, quoi. Il faut qu'ils développent leur partie studio, parce que le problème, ce n'est pas tant qu'il y ait Kinect. Je veux dire, Sony s'en sort très bien alors qu'ils ont le Move. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de studios chez Microsoft. Et là, du coup, qu'est-ce qui arrive à l'E3? Bah, ils se retrouvent à poil. Ils ont rien. Alors que Sony, en face, ils ont quand même 2-3 trucs. Parce que ils ont masse de studios en face. Et Nintendo, pareil, ils peuvent se permettre de sortir des trucs parce que, voilà quoi, il y a plein, ils ont plein de licences, plein de studios, ils peuvent faire plein de trucs. Et Microsoft, ils n'ont pas les armes, quoi. Vraiment, c'est ça le problème. Après, oui, effectivement, Kinect pose un problème sur ce plan-là, parce que du coup, Microsoft consacre toutes ses ressources à ça.
C'est déjà au niveau de la conférence, hein, on
peut dire. De toute manière, je veux dire, même s'il n'y avait pas eu Kinect, je suis pas sûr que on aurait quoi ? On aurait eu un jeu rare ? Vous avez vu les jeux rares ces dernières années ? Ok, il y en a eu 2-3 sympas, mais c'est pas non plus, je veux dire, j'ai pas vu de jeux cultes chez rare, hein, moi. Chez,
ouais, mais maintenant, les jeux rares, ce sera des jeux Kinect, donc comme ça, tu vas être servi.
Halo, je veux dire...
Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce studio ?
Halo, le prochain Halo dont on parlera tout à l'heure, moi, j'attends de voir parce que du coup, c'est plus les développeurs d'origine qui s'en occupent. Mm-hmm. C'est plus Bungie. Donc,
d'ailleurs, c'est qui s'en occupe juste rapidement ce...
Un studio interne avec un chiffre derrière, je me rappelle plus. C'est un studio interne à Microsoft, évidemment.
Êtes-vous capable de me citer un studio chez Microsoft à part Rare et Bungie, enfin même Bungie, qu'est-ce que je dis moi, Bungie.
Et anciennement Bungie.
Je veux dire, tous les studios PC qu'ils avaient avant, ils ont tué. Ils ont acheté plein de studios qu'ils ont tués.
D'ailleurs,
c'est pour ça que les joueurs PC, moi je vous le dis en tant que joueur PC, c'est pour ça que les joueurs PC ne peuvent pas blairer Microsoft, parce que Microsoft a délibérément tué plein de studios PC, notamment les créateurs d'Age of Empires, etc. Enfin,
ça c'est inacceptable.
Ils ont un casier long comme le bras. Et ils n'ont pas de studio, quoi. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas les armes pour lutter face à Sony, Nintendo, quoi.
Donc finalement, ça on l'a retrouvé aussi un peu à travers les conférences, parce que la conférence de Nintendo, ben finalement, de Microsoft, pardon, on n'avait pas beaucoup de jeux exclusifs, on avait beaucoup de Kinect, c'était assez chiant. Donc rapide bilan des conférences constructeurs, selon vous, quelle a été la meilleure ? Quelle question conne ? Et pourquoi ?
Bah Nintendo. Hein.
Voilà, très clair. Pour tout le monde, non ?
Oui, parce que l'annonce d'une nouvelle console de salon, c'est pas comme une annonce d'une console portable, donc forcément il y a un affect différent.
Et encore, je veux dire, Sony, c'était pas une annonce de console portable quand on était.
Oui, voilà. En plus, c'est vrai que c'était une présentation plus officielle, mettons.
Donc, Sony a réussi quand même à sauver les meubles grâce à pas mal de jeux qui ont été montrés, bah, genre Uncharted 3 qui a quand même un peu tout secoué. Ah, là oui. Où Microsoft, pas surpris, moi je trouve, hein, même au niveau des vidéos, des exclus. Attends.
Moi, j'aurais bien envie de demander à son avis à Mamie, parce que je sais que la conférence Sony, au sortant, il était assez dépité.
Oui,
oui, oui. La conférence donc Sony. C'était Sony. Hein. moi, je ne suis pas.
Sony, c'est la Sony Touch.
Ah oui, non, ils savent pas faire des conférences, ça c'est clair. Voilà. Ils sont lents, ils ont aucun sens, oui.
C'était très très long, on n'a pas appris grand chose. On a vu que la NGP c'était sympathique, mais voilà, il n'y a pas eu de grands moments forts. Comme même Microsoft, pour moi, avait réussi par endroits à avoir des trucs un peu, on va dire, sympathiques sans forcément casser les briques. Non, mais moi par exemple.
Ça y est, on va lancer.
Ah non, non, désolé. Bon,
mais messieurs dames, planquez-vous, messieurs dames, va y avoir des coups de
pied. Il y a du troll là. Il y a du troll.
Ça va y aller là.
J'ai trouvé certains objets Kinect intéressants. Bon après.
Star Wars. Gros.
Non, mais Fun Labs par exemple, qui était une application sympathique. Sony, lui, à part Uncharted, qu'ils ont finalement malheureusement montré dès le début, c'est un peu tout. Ils ont tout.
Bon, ça, c'est parce qu'ils savent pas faire des conférences.
Mais après voilà, ils ont dit des chiffres, ils ont lancé 2-3 jeux, ils ont montré des applications Move genre Medieval Move qui est tout pourri. Sony en plus nous on a eu la malchance d'avoir ça tôt le matin, mais même sans que ce soit tôt le matin, c'était pas vraiment folichon quoi. Nintendo, même si c'était la quatrième dimension, au moins dans la quatrième dimension, on sait pas où on est. Il y a un petit effet bizarre de peur, mais là, non.
Non, mais je compare pas Sony à Nintendo. Ça, c'est sûr que Nintendo les explose, mais plutôt à Microsoft.
Oui, c'est pas parce que je suis un pro Microsoft, mais j'ai trouvé Microsoft. Ils ont montré des jeux, plus de jeux déjà palpitants. Là, il y avait Uncharted. Microsoft, bon, il y avait Modern Warfare qu'on connaît bien, mais.
Ouais,
bon,
mais...
Il y avait Tomb Raider, puis il y avait 2-3 jeux sympathiques.
C'est du multi, ça.
S'il en faut.
Ah ouais, mais bon, il y a les conférences éditeurs pour ça. Alors justement, les conférences éditeurs, parce que je crois qu'on
Ouais, parce que en
on
fait,
campe sur nos positions là.
pour, non, parce qu'en fait, pour moi, de toute façon, il n'y a pas photo. Les meilleures conférences, c'est les conférences éditeurs, en fait. Hein, mais,
Je sais que t'as adoré la conférence Konami. Pardon.
enfin, les conférences de certains éditeurs, d'accord. D'accord. Non, mais clairement, pour moi, The Conference était la conférence Ubisoft.
Oh, mais clairement.
Suivi de derrière de la conférence Electronic Arts. Puis après, il y avait le reste, quoi. Il y avait ces deux-là, puis le reste, pour moi, c'est voilà, c'est tout.
Bon, Nintendo était pas super loin. Enfin, tu vas me dire, t'enlèves l'annonce hardware, finalement, la conférence Nintendo.
Bah moi tu me connais, moi les annonces de jeux c'était beaucoup de jeux Nintendo, donc bon c'était pas.
Oui.
C'est pour ça que je les mets derrière, mais effectivement Nintendo était au niveau, quoi. Faut pas exagérer non plus.
Oui.
Mais moi mon avis personnel à moi, c'est Ubisoft, mais à des années-lumière devant tout le monde, quoi. Ensuite la conférence Electronic Arts, parce que voilà, Battlefield 3, mon vieux, mais putain sa mère. Et le reste derrière, quoi.
Ça aurait été Microsoft qui aurait placé du Battlefield 3. Tyran, il aurait dit que ça aurait été la meilleure conférence. Là, pas de problème. Non, mais
pas
oui, je pense que tout le monde sera d'accord avec toi. Vraiment, Ubisoft, ils ont cartonné. Mais quand même, les éditeurs, ils ont l'avantage de pouvoir. En fait, ils n'ont pas à montrer toute la partie chiante comme
Ouais.
Microsoft, Sony ont dû supporter leurs périphériques, ont dû montrer des chiffres. Enfin bon, Microsoft l'a pas fait, mais on va
Attends,
dire qu'il y a
attends,
certaines
ça,
obligations.
je suis désolé. Nintendo, leur conférence, je veux dire, les chiffres, voilà quoi. Alors qu'ils auraient très bien pu en communiquer, hein, je veux dire, il y avait
Bah,
rien à ce
il y a
niveau-là, quoi. Ils ont.
quelques années, ils faisaient que ça.
Ouais, il y a quelques années, mais là, ils ont
Non, mais
compris, tu vois,
ils
ils
se
ont
sont trompés.
compris que les chiffres, ça emmerdait les gens, que, voilà, quoi.
Et que les
Ils ont.
actionnaires, on peut les contacter par email. En gros, c'est
Voilà.
ça. Ce que
Ouais.
Sony n'a toujours pas compris, d'ailleurs.
Oui, mais Sony devrait le comprendre, hein, parce que franchement, les conférences Sony, c'est toujours les plus chiantes de l'E3.
Surtout qu'il y a du potentiel, mais c'est qu'ils sont
Hein.
nuls pour ça. Mais alors, vraiment, je sais pas qui
Ouais.
c'est qui organise leur conférence, mais qu'ils aillent pendre le mec, quoi.
Ils ont des jeux, mais non, ce qu'ils préfèrent dire, c'est des trucs chiants, quoi. Donc non, faudrait qu'ils se réveillent un jour et qu'ils fassent une conférence intéressante. Enfin, pas intéressante, mais plus dynamique en tout cas. Parce que là, c'était 2 heures, non, 1 heure et demie.
À peu près.
C'était long,
La conférence sans fin, comme vous aviez dit.
hein. Ouais.
Ah, mais
Et
j'en
puis,
pouvais
non,
plus,
mais
moi.
ou qu'ils changent l'horaire, parce que bon, quand tu termines à 4 heures du matin, t'en as un petit peu ras-le-bol.
Non, mais ils le changeront pas, ils s'en foutent
Bah,
des
qui
chiffres
change
comme ça.
l'horaire. Oui, franchement, la France, ils vont pas se dire, ah non, le décalage
Oui, non.
horaire avec la France, ça fait 2 h du matin, les mecs de Game Info, ils vont pas être contents. Honnêtement, je pense pas. Hein. Mordred, il y a partiel le lendemain, c'est mort, les mecs, on annule tout.
Ouais.
Bah, pour revenir à la conférence Nintendo, finalement, un truc, on a rapidement esquissé cette idée tout à l'heure, c'est que finalement, là, oui, on a eu un Zelda, mais sinon, c'est la fin. C'est quoi? Donc vous en pensez quoi, vous, la console, là, oui, c'est bon, c'est foutu, quoi.
Oui, la Wii est très clairement en train de mourir, mais de façon hyper rapide, un petit peu comme la GameCube en fait. Enfin, là où le GameCube, enfin, je m'en tape un petit peu. C'est en gros après Zelda Skyward Sword, il y aura plus rien. Si, il y aura le nouveau Kirby Wii, mais c'est tout. Au niveau Nintendo, c'est tout ce qu'on aura sur la Wii à l'avenir. Donc j'espère qu'ils vont se presser pour sortir la Wii U, parce que sinon sur la Wii ça va être un désert, mais absolument innommable au niveau du jeu, hein, parce que
Bah,
sachant
si
que
vous
les
voulez
éditeurs
jouer
tiers, déjà il
Nintendo,
y a
faudra
plus
jouer
qu'ils ont
portable,
fait,
hein.
c'est ça.
Bah, moi, j'ai envie de dire, on remet ça, tu
C'est
vois, on remet
ça.
ça.
On remet.
Non, mais moi, je me rappelle l'époque de la GameCube, mais moi, j'en ai vachement voulu à Nintendo, quoi. J'avais la haine.
C'est pour ça
C'était
qu'il est passé
jour.
PC, en fait, il a été traumatisé.
Du jour au lendemain, mais on a traité les acheteurs de GameCube comme des merdes, quoi. Faut dire ce qui est. Moi, à la limite, l'annonce de la Wii, ok, le motion gaming, moi je m'en tamponnais grave. Ok, ça me faisait un peu grincer les dents qu'il laissait tomber la manette. Mais ce qui faisait le plus gerber, on va dire, c'est que nous, les possesseurs de Wii, on nous a traités comme de la merde. On nous a laissé
De
des
GameCube.
Oui,
blancs
GameCube.
Ah oui, bon, oui, effectivement.
Il est
Alors,
tellement énervé que là.
lapsus révélateur.
Ouais,
c'est vraiment, je veux dire, Déjà la fin de vie c'était pas terrible. Alors en plus, déjà le dernier Zelda, ils nous ont fait un portage. Enfin, vraiment c'était, ils les ont sortis, le Zelda, le dernier Zelda qui est sorti sur GameCube, ils l'ont sorti à des exemplaires, un nombre très très réduit d'exemplaires pour le vendre sur leur putain de Wii, quoi. Et ça, moi, je veux dire, après le jeu, du coup, il s'est retrouvé, il coûtait une fortune. moi, je veux dire, j'en ai beaucoup voulu à Nintendo à cette époque-là, pas parce qu'ils ont laissé tomber la manette, etc., mais parce que ils ont clairement laissé tomber les possesseurs de GameCube, quoi.
Bah, il faut
sans pas
aussi...
refaire la même. Bon, vas-y.
Au DS, c'est pareil. Hein.
Il y a la rétrocompatibilité hein, qui avait tué la GameCube parce que les jeux GameCube étaient jouables sur la Wii. Là, apparemment. Vu que c'est le même contrôleur, les jeux Wii vont tous tourner sur la Wii U.
Ouais.
Et je pense que le rapport des noms est pas anodin. Hein. C'est à mon avis parce que c'est une Wii améliorée, quoi. Donc finalement, c'est vrai qu'il y aura aucun intérêt à avoir la Wii une fois que la Wii U sera sortie.
Oui, c'est sûr.
Alors on note les exigences pour Mordren, changer les horaires de la conférence Sony, pour Tyran, arrêter de faire mourir les consoles de Nintendo d'un coup. Et pour Mamie, faire des conférences Sony plus courtes. Donc bon, là oui, je crois qu'on a à peu près diagnostiqué le problème. Elle est mourante, on ne peut plus rien pour elle, désolé.
En même temps, ça faisait déjà, cette année, je veux dire, déjà... voilà quoi, vous avez vu quoi comme jeu marquant cette année sur Wii, à part oui,
Donkey
voilà.
Country, ouais. Et Kirby, Kirby au fil de l'aventure aussi qui était super.
Ouais, super deux jeux, enfin deux trois, il y a le RPG aussi qui arrive là, Xenoblade, mais je sais pas s'il va sortir chez nous.
La Story.
The Last Story.
Il arrivera dans deux.
Non, oubliez The Last Story en fait. C'est pas que je troll sur le créateur de Final Fantasy, mais bon, c'est voilà.
Il y a peu de chances qu'il sorte en France un jour, hein, normalement.
Mais voilà quoi, je veux dire.
Ça sent le sapin.
Même les jeux qui sortent au Japon, je veux dire, des gros jeux comme Xenoblade, c'est la tannée pour les faire sortir en Europe.
Ouais.
Alors qu'ils ont plus rien. Enfin, on se doutait que voilà, quoi, ils étaient en train un peu beaucoup de la laisser tomber, quoi.
Ouais.
Donc je propose une minute de silence pour la Wii. Ça serait un peu chiant et elle les mérite pas.
Au moment de la Wii U.
Voilà. J'aime bien la musique d'ambiance. Bon, maintenant on va passer à ce qui intéresse tout le monde, des jeux. Donc on a divisé ça en différentes catégories, ça va du FPS au jeu d'infiltration, même si c'est un peu le désert à ce niveau-là, on en reparlera. Donc pour commencer en FPS, alors on en a sélectionné quelques-uns, vous allez en choisir un et en parler. Si possible, vous choisissez pas le même, donc... Mamie et Tyran, je sais que vous allez prendre BF3, vous le prenez pas tous les deux. Donc justement, on a BF3.
Bah, je laisse à Mamie aller.
Ouais. BF3, Modern Warfare 3, Far Cry 3, Brother in Arms, Furious 4, Bioshock Infinite, Dust 514, le choix de Tyran à mon avis. Du coup,
yep.
Resistance 3, Halo 4, Halo Anniversary. Je reprends ma respiration et je donne la parole pour commencer à Mordren.
Oui, d'accord.
Tu choisis un jeu dans la liste.
Sympa.
Non, je m'attendais à ce que tu laisses Mamie Lamy faire son BF.
Non, c'est pour le petit coup de surprise, tu vois.
Ok, bon, bah alors j'ai été très surpris, ça a marché. Alors moi, forcément, j'aime Halo, donc on va parler de Halo avec moi.
Là aussi, c'est une surprise.
surtout d'Halo Anniversary. Parce que bon, Halo 4, on a vu juste un teaser, donc enfin un teaser. Moi, ce qui est intéressant.
Oui, un teaser, c'est le mot. Oui.
C'est pas un trailer. Vu ce qu'il y avait dedans, c'est un teaser.
Par rapport à Halo 4, tout ce qui est intéressant à mentionner, en fait, c'est que ça va donner lieu à une nouvelle trilogie. Donc ça, c'est bon à savoir pour les fanboys. Et puis, bah, c'est tout hein, par rapport à Halo 4. Donc, je vais pas vous spoiler. Par rapport à la fin de Halo 3, mais bon, si vous avez vu le teaser, voilà, vous savez ce qui va se passer.
Tout le monde meurt.
C'est ça.
C'est pour ça qu'il y en a un 4, d'ailleurs, ce qui est logique.
Donc bon, moi, ce qui m'intéressait, c'est le Halo Anniversary, qui est en fait un remake de Halo Combat Evolved, donc le premier, donc pour les 10 ans de la série, Halo 1 étant sorti en 2001. Donc en gros, ce sera un remake pure souche, à savoir un remake de fond en comble. Tout le jeu a été refait. Voilà, donc ça c'est super intéressant. Moi c'est ce que j'attendais, hein. Je vous en avais parlé dans le podcast pré-E3. C'est vraiment le truc, moi c'est ce que j'attendais par rapport
Alléluia,
à...
en gros.
Voilà, par rapport au remake. Donc voilà. Je me tais là-dessus parce que bon finalement on n'en connaît pas grand-chose mais je suis très très content. mon âme de fanboy est contente.
Te voilà donc content de cette petite partie FPS pour le 3 2011. Ouais. Tyran, toi t'avais dit 2514.
Il y a pas photo, 2514. Donc 2514, donc le jeu où les joueurs de Eve Online pourront engager des mercenaires sur console pour conquérir les planètes. Alors ce que je vous avais pas dit par contre. Je ne comprends pas comment j'ai pu zapper cette information vitale.
C'est qu'il y a trop de choses.
C'est que le jeu sera free to play.
Oh!
Le jeu sera free to play et ce sera donc des cartes de 256 joueurs maximum. Et en fait, l'idée c'est quoi? C'est que il y aura, bon, vous vous imaginez bien, il y aura un système de micro-paiement parce que rien n'est gratuit en ce bas monde. Oui. Et en fait, vous aurez un choix. Donc soit vous utiliserez les ISK, donc qui sont la monnaie d'Eve Online, pour vous acheter de l'équipement, mais vous pourrez aussi vous acheter de l'équipement avec de l'argent bien réel, celui-là.
Ça va motiver après le hack du PSN, je pense que là, ce système.
Sachant que de toute façon, certes, vous pourrez vous acheter de l'équipement, mais c'est pas ça qui vous fera en monter en grade, oui. Parce que ce jeu aura donc un système de grades, mais ce ne sera pas des niveaux comme dans un MMORPG. En fait, ce sera un système d'achievement, comme le système d'achievement classique. Hein. Mm-hmm. Et en fait, chaque race aura des achievements bien précis qui vous permettront d'augmenter en grade.
Alors, je vais donc, passer.
Ça veut dire que si vous augmentez en grade, de toute manière, ça sera grâce à votre skill.
Pour la traduction, Mikael, ce sont des hauts faits ou des succès, quoi.
C'est pas ça que je vais te demander. C'est un free to play. Or, un free to play, d'habitude, c'est un jeu que tu ne payes pas du tout. Mais tu veux dire quoi? Un jeu gratuit ou juste qu'il n'y a pas d'abonnement?
Non. T'achètes la boîte.
Les free to play, c'est pas parce que le jeu en lui-même est gratuit qu'il n'y a pas de système de micro-paiement à l'intérieur.
Je veux dire, t'achèteras quand même le jeu 70 euros.
Non. Il est free to play. Moi, ce que j'ai lu, il est free to play.
PlayStation 3.
Moi, c'est ce que j'ai lu, en tout cas. Ils ont annoncé qu'il était free to play.
Oui, parce que ça me surprend. J'en perds mes mots. Parce que si c'est, faudra vérifier l'info. C'est quand même étrange, hein, free to play.
D'après eux, les joueurs console n'aiment pas payer en ligne. Moi, j'aurais bien eu envie de leur rétorquer que les joueurs 360 payent bien un abonnement chaque mois pour.
C'est pour ça qu'on va sortir sur 360. Imagine les mecs qui payent leur abonnement Xbox, ils payent leur abonnement MMO en plus.
Non. Sur 360, ils le sortent pas. Parce que en fait,
c'était du troll. Hein.
Non, mais laisse-moi expliquer, s'il te plaît. Microsoft en fait s'implique beaucoup dans le développement des jeux qui sortent sur 360. Et en fait, ils auraient fourré leur nez à un point que CCP n'avait pas envie de s'emmerder avec ça. Ils leur ont dit en gros d'aller se faire voir en fait.
Donc, c'est bien dommage pour les joueurs 360. Ouais. Apparemment. Vu tout ce que tu as l'air de dire,
Microsoft a vraiment un contrôle qualité en fait, mais tellement pénible que voilà quoi, ils avaient pas envie de se prendre la tête avec ça, ils ont dit vas-y, on sort sur PS3, comme ça on sera tranquille.
Et leur contrôle qualité, il existait à l'époque de Halo 3 parce qu'il y en a un qui est passé à travers les mailles du filet. Hein.
Stop, arrête le troll, s'il te plaît.
Stop troll, pitié.
Alors sachant que toujours sur 2514, donc je vous avais dit qu'il y aurait des en fonction de votre grade, donc à partir d'un certain grade vous serez commandant donc, et vous pourrez placer donc les bâtiments du jeu. Et sachant que si, de toute manière s'il n'y a pas de commandant dans votre équipe, ce sera l'IA qui gérera ça. Hein. Donc quoi qu'il arrive, ils ont l'air d'avoir pensé à tout. C'est vachement bien foutu. J'ai envie de voir vraiment, je suis très curieux de voir ce qui va se passer.
Moi, ça m'intéresse beaucoup, en tout cas. Tout ce que tu me racontes.
Oui, moi aussi, surtout le coût du free to play sur PS3, mais alors ça, affaire à suivre, parce que vraiment, ce serait incroyable. C'est tout, un free to play sur console, incroyable. Surtout un jeu de cette envergure. Donc, Mamie.
Oui, alors, moi, donc, ce sera.
Le Saint Graal.
Battlefield 3.
On l'a forcé à dire, à parler de Battlefield 3, en fait.
Non, mais si tu veux parler d'autre chose, hein, on te force pas, hein.
Non, mais moi.
Il y a Tyran qui attend derrière, là, vraiment. Lui, tu lui dis, ok, c'est bon, il part.
Chaud bouillant, là.
J'ai été un très, très, très gros joueur de, Battlefield 2. Et donc j'attends avec énormément d'impatience ce BF3, surtout qu'il s'est laissé attendre, hein, puisque ça fait un petit moment qu'ils n'avaient pas sorti d'opus purement Battlefield et non pas Bad Company. Pour ce qu'on en a vu, il va falloir un PC qui vient direct du 23e siècle à peu près pour.
Pourtant, je trouve assez moche, moi. Pardon, c'était la blague.
pour le faire tourner, on va dire à plein régime. Voilà, que dire, le trailer, enfin non, c'était plus carrément une grosse démo de gameplay qui nous a été donnée par Electronic Arts. Donc de cette démo, on peut voir que clairement c'est super beau, super dynamique, non pas dans la scène qu'on a vue, vu qu'il y a un gros passage où le char avance et c'est tout.
C'est du tank en même temps, je veux dire. voilà quoi. <c'est... rire>
Donc bon, mais en tout cas dynamique, en tout cas dans le gameplay, pour avoir vu d'autres vidéos qui présentaient plus particulièrement le nouveau moteur Frostbite 2, qui a l'air juste magnifique quoi, dans les destructions et ouais, incroyable.
High-tech, va te coucher.
Voilà, gentiment, merci.
Même et chose pour Call of Duty.
Ah bah, voilà. Oh non, mais...
oui, la question ne se pose même plus.
N'importe quel jeu, c'est que Call of Duty va te coucher avec le moteur, voyons.
Mais c'est vrai que voilà, au niveau du solo, il a l'air sympathique. Au niveau de moi, ce que j'attends personnellement, c'est le multi.
Évidemment, qui dit Battlefield dit multi, évidemment.
Forcément, voilà.
Moi, je joue qu'au solo. C'était les blagues nulles, j'enchaîne.
Donc, au niveau du multi, il a l'air, s'il est aussi beau que ce qu'on a pu voir, aussi fluide, et avoir des destructions, surtout les destructions, moi, j'attends voir sur le multi.
Juste, oui. Rapidement, t'as pas mentionné le fait que les versions consoles sont scandaleuses, au vu du nombre de joueurs en ligne. 24 contre 64, c'est ça?
Quoi?
Comment ça, 24 contre 64?
Les versions consoles auront beaucoup moins de joueurs sur les serveurs
d'accord,
PC.
Bah, d'un autre côté, on peut comprendre.
Oui, ça, ça se comprend, mais bon, je veux dire...
On est habitué, j'ai envie de dire.
Hein. Oui, ça m'étonne pas.
Hein. Bah, Rihanna sous le soleil. Hein.
Ouais, mais Bad Company 2 était pareil sur les deux.
Oui, oui, c'était nivellement par le bas, si je me souviens bien, non?
C'est vrai. Bon, là je te raconte. Non, mais d'un côté,
non, parce que il y a au témoin à doute, Battlefield Bad Company 2, il y avait pas 64 joueurs sur PC, hein.
Non.
C'est bien ce que je dis, donc c'était le niveau par le bas.
Mais alors, oui, bon, d'un côté, soit vous avez un jeu au rabais qui sera moins beau, qui sera avec moins de joueurs, c'est-à-dire sur Xbox 360 ou sur soit vous avez le jeu sur PC qui est super bien, mais il faut investir en 1 500 € pour un nouveau PC.
Je m'en fous des joueurs Xbox, je veux mes 64 contre 64, c'est l'intérêt de Battlefield, merde!
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Battlefield, si on n'est pas beaucoup sur la map, ça sert à rien. Hein.
Ouais, mais surtout que les maps, va falloir ajuster la taille, parce que par exemple, si on prend les maps de Battlefield 2, les grandes maps...
Les maps étaient ajustables hein, sur Battlefield 2.
C'est là où donc... c'était fort, mais ça c'est chiant, c'est-à-dire soit ben, on va avoir des super grandes maps vides, soit on va louper carrément des parties de la map, parce que Battlefield 2 par exemple, la map, j'ai pas le nom en tête, mais la map qui était...
Il y avait la map Carcande que beaucoup de joueurs connaissent parce que c'est l'une des plus jouées.
Je sais pas, moi je voulais parler de la map qui était en fait proposée dans la démo, alors je sais plus, celle où il y a un porte-avions en fait américain. Et en fait, quand on réduisait le nombre de joueurs, qu'on n'était pas à 64, on n'avait carrément pas accès aux porte-avions, aux aéroports. Enfin bref, c'était toute une partie de la map, la meilleure partie à mon goût, qu'on loupait. Donc ça, finalement, ça va faire mal, quoi.
Oui, ou alors ils peuvent avoir fait une refonte de leur map spécialement pour pas trop rater. Bon, mais... ça, on sait pas trop, vu qu'on a vu que la version PC actuellement.
Donc méfiance sur les versions console, là, faut nuancer quand même.
Hein. Et moi, là, franchement, j'attends avec impatience la perspective... j'espère qu'il y aura genre des avions pour transporter les joueurs et tout, ça va être cool.
Attirant là, c'est bon, il est lancé. Donc quelque chose à rajouter sur Battlefield 3?
Bah, à part qu'à mon avis, il est bien parti pour remporter son combat contre Modern Warfare 3. Non. rien.
Pas au niveau vente, hein, je pense pas.
Bah, il sort légèrement avant, donc il part avec un tout petit peu d'avance, mais. Non, au niveau des ventes, je sais pas, hein, parce que Battlefield était là avant Call of Duty.
Oui.
Tout du moins au niveau du multi.
Ah, mais Call of Duty, c'est beaucoup joué par les casuals. Ça.
C'est vrai.
Enfin, par le grand public, en tout cas, le grand public connaît beaucoup plus la licence oui. Call of Duty que Battlefield.
Ouais, forcément, dès que tu demandes d'avoir un minimum de stratégie et plus de courir dans des couloirs et d'appuyer sur une touche pour tirer avec une visée automatique, ben les gens sont perdus. Hein.
Mais sinon, sur Battlefield 1942, à coordonner les chars et tout pour... ouais, les mecs, rabattez-les là, on les attend avec les chars.
Ah ouais, non, mais c'est génial, ça.
Bon, bref, on va enchaîner, parce que sinon, les instants de nostalgie, on pourrait encore en parler pendant des heures de la série. Donc moi, j'ai décidé de parler Far Cry 3, parce que finalement, je suis sur le deuxième en ce moment, et il y a beaucoup de défauts, mais il y a de très bonnes qualités. Et avec un peu de chance, ce Far Cry 3, déjà, il suffit qu'ils enlèvent les postes de garde et le jeu est deux fois mieux. Ils ont décidé de revenir sur une île, un peu à la manière de Far Cry 1, enfin complètement à la manière de Far Cry 1. Et franchement, ça a l'air super beau. Bon, techniquement, c'est beau. Hein, c'est pas à la hauteur d'un Crysis ou d'un Battlefield 3, justement. Mais c'est quand même techniquement plus qu'honorable. C'est très beau. Il n'y a pas à chier. Et c'est surtout... Le jeu de couleurs que j'ai vraiment bien aimé, c'est un peu à la manière du premier Uncharted ou même de Far Cry 1, c'est que c'est un jeu qui se veut réaliste. Ah, ça pète, hein. Oui, voilà, c'est un jeu qui se veut réaliste, il n'est pas du tout cartoon, mais les couleurs...
Réaliste pas au niveau des couleurs.
Oui, ben voilà, parce que ma phrase. Hein. Les couleurs se veulent plus colorées que dans la normale, c'est vraiment, là, c'est un parti pris graphique, c'est vraiment des couleurs qui pètent, et moi j'ai envie de dire, enfin... J'en ai marre de tous les jeux où on est dans des couloirs noirs et tout. L'obscurité, c'est du cache-misère. Moi, je dis toujours, c'est facile de dire qu'on a de belles textures. Il y a des jeux, il fait tellement noir, on peut même pas voir les murs.
Après, je nuancerai un peu. Elles sont effectivement, elles pètent, mais c'est quand même vachement moins criarde que dans le premier. Parce que dans le premier, je sais pas si vous vous rappelez, mais la mer, par exemple, les couleurs, c'était l'arc-en-ciel, quoi. C'était Disney, là. Hein.
La mer, elle était fluorescente, à mon avis.
Ah ouais, c'était spécial. Fallait vraiment aimer, quoi.
Alors vraiment, ça s'annonce tout simplement très sympa, une bonne ambiance.
C'est vraiment l'ambiance qui m'a.
Oui.
Ouais, pareil.
Ah oui, non, et on a eu pas mal de gameplay. On a eu le droit à un peu plus de 5 minutes. Et franchement, c'est pas un jeu que je prendrais pour le multi, moi, mais le solo a l'air vraiment sympa avec une map ouverte et tout. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est un retour aux sources et qu'ils vont vous faire un bon Far Cry et que la licence va revenir. Je veux y croire, en tout cas. Et ça a l'air plutôt bien parti. Voilà.
En tout cas, le méchant a l'air plus digne de ce nom que celui du 2.
Bah, apparemment, ce sera pas un grand méchant. Lui, c'était juste en fait un boss de faction en fait. Il y aura pas mal de factions qui se friteront sur l'île, un peu à la manière de Far Cry 2 qui avait l'UFLL et l'APR. Voilà.
Sinon, j'aimerais vite fait glisser un mot sur Metro The Last Light, la suite de Metro 2033. Je vais juste dire vite fait, regardez le trailer, franchement ça l'ambiance a l'air juste, en plus la musique des boîtes, l'ambiance a l'air excellente, vraiment ça s'annonce aussi grandiose que son aîné, hein, au niveau de l'ambiance.
Il y a le patch approuvé par le tyran dessus.
Ouais, Seal of Approval.
Ouais, et puisqu'on en est à glisser des choses, je voudrais aussi glisser le nouveau Brothers in Arms, The Furious Four, pareil, regardez le trailer, c'est absolument génial. En termes d'ambiance, on est vraiment dans le Inglourious Basterds de Tarantino.
Encore un reboot ou, enfin, moi c'est vraiment ce que j'ai eu l'impression. Alors, c'était un reboot un peu.
Je crois que c'est un reboot, mais le but c'est bon d'avoir le nom de la licence.
Moi j'ai plus l'impression d'un spin-off en fait, hein, mais.
Ouais. Dit comme ça, oui maintenant. Ouais.
Je suis d'accord avec toi sur
l'ambiance. Ouais.
Mais je suis pas sûr que ce soit pour toucher les jeunes, mais en termes d'ambiance, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a pas vraiment vu en termes de shooter dans la Deuxième Guerre mondiale, et je pense que ça peut donner quelque chose de super fun, et oui, moi j'attends celui-là avec impatience.
Donc, pour rester dans les gros guns et le pam-pam boum boum, on va maintenant passer au TPS. Alors on a eu entre autres, on garde les gros jeux selon nous, hein. Gears of War 3, Uncharted 3, Star Hawk, Tomb Raider et Overstrike. Alors, je vais pas vous obliger à en choisir un, là, parce que ce serait peut-être un peu plus compliqué.
Ouais, surtout que moi, les TPS, je veux dire,
Bon. Ouais, je suis désolé, c'est des
À part un certain TPS de chez Sega, mais à part ça.
Donc, on commence par Gears of War 3, on a vu une vidéo. J'ai envie de dire, c'est plus beau que ce que je pensais, mais c'est du Gears of War. Hein. On change pas une formule qui gagne. Oui.
Oui. Bah pourquoi ça changerait, j'ai envie de dire.
Oui, bah non, oui, voilà.
C'est tout à fait dans l'esprit de la série. En termes graphiques, c'est peut-être un poil plus beau, je sais pas.
Si tu dis que c'est beaucoup plus beau, ouais.
J'en sais rien. Oui. Et puis non, non, ça a l'air d'être de prendre plus d'ampleur au niveau de la taille des monstres, en tout cas. Et puis donc c'est pas une mauvaise chose.
Une bonne suite quoi.
Oui ouais.
Donc bon, on va pas s'éterniser dessus parce que finalement c'est quoi, c'est Gears of War 2 en mieux apparemment. Si vous avez aimé les précédents, ben à mon avis, voilà, ouais. Achetez-le. Si vous avez pas aimé les Gears of War, ben vous aimerez pas celui-là. Hein. Donc ouais. Uncharted, ben c'est à peu près pareil, sauf que là, je trouve que techniquement Uncharted, ça tourne sur PS3, c'est vraiment pas mal quand même. Hein. Tiens, ah oui. T'en avais parlé, la déformation du décor, toi, qui t'avait bluffé.
Ouais, la transformation temporelle du décor qui est franchement, j'ai les yeux qui se sont écarquillés, puis même la mer, quoi, la tempête et tout.
Oh là là, oui.
Oui.
C'était ouf, ouf, mais voilà, quand même. Ouais. Comment ne pas être impressionné par ça, quoi, je veux dire.
Alors on peut dire que les mecs, c'est vraiment eux qui maîtrisent la console, hein. C'est là qu'on se dit, la PlayStation 3, c'est pas à la hauteur des tout derniers PC et tout, ça c'est sûr, mais vraiment, c'est quand même assez énorme ce que la machine a dans le bide. Hein.
En même temps, ils sont un peu là pour ça, hein, j'ai envie de dire.
Oui,
Sony leur a confié vraiment le rôle d'aider les studios tiers, etc.
Bon, on l'a vu pour Infamous 2, Sucker Punch a reçu l'aide un peu de Naughty Dog. Ouais.
Donc, bon, clairement, c'est ceux qui maîtrisent le milieu de la console, il n'y a pas à chier, quoi. C'est juste magnifique, franchement. Ils sont en train de lui faire cracher ses tripes et pour notre plus grand bonheur, quoi.
Ouais, voilà. Très très impressionnant, oui, je suis d'accord.
Donc, on va passer maintenant à Starhawk. Alors là, apparemment, il y a que moi qui connais, oui.
Ouais, je crois en fait.
Oui, je crois qu'il y a que toi. Ouais.
Donc rapidement, c'est la suite de Warhawk, un jeu qui était ma foi fort sympathique, seulement multijoueur sur PlayStation 3, qui était, il me semble pas, il y avait une version boîte, mais c'était pas une version boîte. Ultra mise en avant, c'était surtout un jeu sur le PSN, mais un vrai jeu, un vrai bon gros jeu, où en fait on avait un peu tout, on avait des avions, on avait du tank, on pouvait se déplacer à pied, enfin c'était un gros jeu multijoueur qui avait super bien marché et qui ma foi avait été une grande surprise par sa qualité, qui était pour un jeu un peu pas sorti de nulle part, mais il était vraiment sympa. Alors Starhawk, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est sa suite, sauf que cette fois on ne se cantonne plus à des petits avions et tout. Non, là, c'est un peu plus dans le cadre de l'espace. Globalement, ça semble intéressant parce qu'on pourra placer des bâtiments et tout. Enfin, ils ont poussé le truc encore plus loin. C'est une valeur sûre pour quiconque aime le multijoueur sous PlayStation 3. Pour l'instant, je vais pas trop m'avancer dessus, mais ça a l'air, ma foi, fort sympathique. Donc, Tomb Raider, on va parler de cette Lara pas trop longtemps. On en a déjà parlé longtemps. C'est formidable. Ils ont fait renaître la série, moi je pense.
Ah oui, clairement. Ouais. Enfin, moi personnellement, j'ai vraiment accroché. J'en attendais beaucoup de la présentation de Tomb Raider, parce que c'est vrai que moi ça me parle. Cet univers un petit peu plus sombre que ce qu'on a vu, ce à quoi on est habitué avec Tomb Raider. Et donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très grand avec ce Tomb Raider. Alors je sais que il y a certains de nos amis rédacteurs qui ne sont pas super d'accord au niveau de l'ambiance et au niveau de la mise en scène, notamment le tyran. Je crois que t'as pas été autant touché que moi en fait.
Non, moi c'est pas tant l'ambiance que la mise en scène. C'est déjà c'est des trucs purement techniques en fait. C'est les caméras, moi stop. J'espère que tout le jeu ça sera pas comme ça parce que sinon je vais devenir épileptique.
C'est rec en version jeu. C'est ça en fait.
C'était les caméras, j'ai trouvé insupportable. Après l'ambiance, moi l'ambiance c'est trop sympa. Le problème c'est qu'on a pas vu de gameplay quoi, c'est tout. Moi j'attends de voir du gameplay. Tout ce qu'on a vu en gameplay, c'était des QTE. Donc moi je veux dire, des QTE c'est bon, j'en ai soupé. Hein. Donc avant de m'enthousiasmer vraiment, effectivement l'ambiance elle a l'air bien. Rien à dire là-dessus, ça a l'air vachement bien. Après, moi j'attends toujours de voir du gameplay, du gameplay, du gameplay. Et une caméra potable. Merci.
Voilà, caméra encore là, vu que c'était pas vraiment des phases de gameplay, mais des trucs ultra scriptés, on peut comprendre qu'ils ont voulu la mettre, surtout que c'est pour une conférence, donc ils ont décidé de montrer un passage ultra dynamique, à mon avis. Hein.
Oui.
Donc sinon, on parlait aussi de Overstrike. Alors là, on sait pas trop. Apparemment, ce serait un TPS. On n'est pas vraiment sûr, mais alors ça a été la bonne surprise avec une ambiance un peu délirante. Quelqu'un a envie de dire quelque chose dessus sur cette
Funky.
Oui, c'est vrai que Overstrike, enfin, personnellement, je sais qu'au moment où je l'ai vu, la
Ah
conférence,
ouais.
j'ai écouté qu'à moitié.
Il s'est réveillé d'un coup.
C'était juste, pour moi, un petit trailer de quoi, 2 minutes à tout casser, mais c'était, il y avait tout ce qu'il fallait pour franchement faire rebondir un peu. Et là, c'est l'ambiance, donc, c'est vraiment des mercenaires. Enfin, ça a l'air, donc, c'est une histoire de 4 mercenaires. Qui forme l'équipe Overstrike 9, qui donc apparemment, hein, du moins d'après le trailer, c'est une équipe de choc avec chacun sa spécialité et comme bon ben l'éditeur a l'habitude de nous faire voir donc des, en fait j'ai perdu le nom là,
Insomniac Games,
voilà,
Insomniac Games. Oui. Ceux qui ont fait Ratchet et Resistance.
On a l'habitude des gadgets un peu délirants, là apparemment c'est ils en seront encore. Et franchement, le jeu, il a l'air tout simplement, du moins l'ambiance, géniale. Enfin, ça a l'air assez marrant. Et si c'est un TPS, parce qu'on n'en est pas vraiment sûr encore, il aura l'air donc assez nerveux et ouais, c'est à surveiller très très fort, on va dire.
Une bonne surprise en tout cas.
Puis même le concept des, donc apparemment, ce sera un peu à la Lost Viking, tu vois, t'as un héros qui récompensera les faiblesses de l'autre, etc. Enfin, moi, ça me plaît toujours bien, ce genre de truc où on force vraiment à.
Ça sent
à
la bonne pop.
Ouais, ça sent le bon couple, quoi. Bon couple en joueur, c'est prometteur.
C'est vrai qu'en plus, les TPS coopératifs, c'est pas ce qui court les rues, donc.
C'est vrai.
À voir fort, ouais, à voir.
Donc attends, tu parles pas de Army of Two.
Oh. Alors rectification, les bons TPS coopératifs, c'est pas. Oh, il y a Army of Two. Quel nom de merde. Pardon. Le 2 qui était un peu meilleur, mais bon.
C'était quoi, le 40e jour ou un truc comme ça.
Ouais.
Army of Two, ça sonne beaucoup mieux. Un jeu qui avait eu chien. Bref. Maintenant, on va parler d'un jeu qui est à la croisée entre les TPS et les RPG. Un jeu qui d'ailleurs se rapproche de plus en plus vers le TPS, qui se rapproche dangereusement vers le TPS. Si je vous dis Dragon Age 2, vous me dites
BioWare.
Jeu pourri.
Voilà, les deux marchent. Et si je vous dis Mass Effect, vous me dites.
Eh ben, Mass Effect 3.
Ouais, j'ai jamais été fort pour ce genre de choses.
J'ai pas vu le cheminement du raisonnement, mais oui.
Non, moi je voyais BioWare, enfin bon, bref.
Oui, non, mais j'attendais Tyrant qu'il sorte encore jeu pourri, mais non, il a pas trollé sur ce coup-ci.
Bah, j'y ai pas joué, donc je n'ai pas pour habitude de troller sur des jeux auxquels je n'ai pas joué, mon cher.
Ah ouais, mais attends, il y a quand même la fonctionnalité Kinect qui aurait pu faire une attaque facile, mais bref. Donc, on a eu le droit à un peu de gameplay ultra dynamique, mais peut-être un peu trop dynamique. Mordren, non.
Oui, bah tellement dynamique que ça nous en a fait peur un petit peu en fait concernant la vraie nature de ce Mass Effect 3. On se demande en fait si ça tourne vraiment pas vers le jeu, l'action shooter plus que le RPG en fait.
C'était du Gears of War avec un peu moins de muscles.
C'est tout à fait ça. Je sais plus qui parlait d'un mix entre Gears of War et Halo, et c'est un petit peu tout à
ouais,
fait.
C'est moi.
Ouais, bah le tyran, je pense que t'as un peu raison. Enfin, en tout cas sur la séquence qu'on a vue, c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Donc c'est de l'action débridée. J'aimerais quand même qu'il développe un petit peu plus le côté RPG plutôt, et le côté choix et dramatique de Mass Effect dans de prochains carnets de développeurs ou de prochains trailers. Histoire qu'on soit rassuré sur la vraie nature de ce Mass Effect 3, que ce soit pas quand même que de l'action.
Bah justement.
Non, mais même la phase de shoot dans le vaisseau, je veux dire, ça remarque, c'est pas nouveau chez eux. Il avait déjà fait pour Star Wars.
Knights of the Old Republic.
KOTOR, ouais, il avait déjà fait pour KOTOR avec les phases pourries de shoot.
Oui, c'est pas génial.
C'était vraiment. Mais là, du coup, ça choquait vraiment parce que quand même, ce qu'on avait vu avant, déjà, ça ressemblait vachement du TPS. Mm. En la phase de shoot en plus derrière, ça commençait à le lourd dossier, tu vois.
Mm. Oui, bah justement, Mordren, tu parlais d'être rassuré, mais en fait, pourquoi je parlais de Dragon Age 2 tout à l'heure, c'est parce que les gens ont peur que ça fasse un peu que la série Mass Effect tourne comme la série Dragon Age, où finalement oui. on a eu une sacrée actionnalisation oui. du jeu, et là bon
ouais,
on
mais...
peut
se... mais sur Dragon Age 2 ça bon, je... petite parenthèse vite fait,
oui, vas-y.
Sur Dragon Age 2 ça posait les gens beaucoup plus gueulés parce que il nous l'avait vendu comme le successeur de Baldur's Gate, etc. Mmh. Et je suis désolé, ça n'a plus rien à voir avec Baldur's Gate. Fin de la parenthèse.
Voilà. Et donc, pour répondre un petit peu à l'actionnalisation de Mass Effect, Mass Effect 2 était déjà beaucoup plus action que Mass Effect 1. Et personnellement, je m'en suis pas plaint du tout. Hein. C'était vraiment bon, très
mais
bien.
Mais certains joueurs, oui. Moi non plus, je m'en
certains
suis pas
joueurs,
plaint.
Oui. Moi, je m'en suis pas plaint parce que le côté dialogue, etc., était très bien rendu, je trouve.
Ouais.
Même si ça, je trouve que ça valait pas, par exemple, un Alpha Protocol, qui est pour moi une sorte d'aboutissement dans ce domaine-là. Mais c'était vraiment très très bien rendu et ça compensait bien, je trouve.
Mais finalement, est-ce qu'on peut se dire aussi que vu encore une fois que c'était une conférence, ils ont montré un passage bien dynamique, mais je crois que la phase de ride-shooting, oui. c'est quand même le truc symbolique, quoi.
C'est vrai que c'est assez emblématique de ce qui pourrait arriver. Ouais.
Donc pleurons en attendant, parce qu'on a peur. Je crois que ça résume bien le truc. Hein. Donc bah, cette fois, on va passer à des RPG un peu plus prononcés dans leur partie bah, RPG. Donc Skyrim. On va parler de lui pour faire la transition en douceur, car c'est un RPG. On a même plus besoin de mettre de musique de fond. Continue, pendant tout le temps qu'on parle de Skyrim, tu nous fais la musique.
Bah non, le problème c'est que c'est lui qui va en parler.
Moi aussi je vais en parler. Hein. Donc on a eu le droit à une vidéo de 6 minutes et des boulouettes, comme on dit par chez moi, qui était fort sympatoche. Et où on a vu des gros dragons, des gros monstres, et où c'était, ça envoyait du lourd, quoi. Tyran, toi qui chantes si bien, vas-y.
Bah ouais, c'est, ça a l'air d'envoyer du lourd, quoi. En plus, ils ont l'air enfin de s'être renouvelé un peu au niveau des mécaniques de jeu, etc. Donc, ah ouais, le moment où il appelle le dragon qui vient défoncer un troll, j'avoue.
Ah ouais, alors ça. Surtout, vu la taille du troll, la taille du dragon et le machin, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est scripté, bon, ça peut pas arriver tout le temps.
Ma seule critique, c'est qu'au niveau des animations, ils ont l'air toujours d'avoir de sérieux problèmes, hein, mais.
Ah ben, tu prends Michael Jackson qui fait un moonwalk, mais en fait, c'est les personnages quand ils marchent, hein. Il glisse, ce qui est assez. Mais franchement, personne ne joue un Elder Scroll autrement qu'une vue à la première personne. Hein.
Ouais, mais même les animations des mobs, etc. Je trouve que c'est pas encore ça. Même le dragon encore ça l'est. Mais
bah, genre, il touchait pas le sol, c'est ça. On n'avait pas l'impression qu'il glissait vu qu'il volait.
Non, mais c'est le genre le troll, etc. L'animation, j'avais un petit souci. Je trouvais qu'il y avait, il avait pas assez d'inertie. Enfin bref.
C'est... Oui, non, c'est... non, mais c'est vrai, c'est vrai.
C'est que je suis un peu difficile, mais
faut nuancer.
C'est quand même mieux que les Morrowind et les Wyvern, faut pas déconner. Mais franchement, ils ont encore du taf, quoi. Il faut vraiment qu'ils fassent un truc là-dessus. Mais sinon, ouais, ça a l'air pas mal. Ouais, quoi.
Pour revenir au côté positif, on a vu la gestion des deux mains qui s'annonce énorme quand même. Il y a pas mal de possibilités avec ça.
Ouais, le système de perks qui a l'air pas mal et tout.
Voilà, extrêmement dynamique. Des environnements qui, alors je sais pas ce que vous en pensez au niveau du comment on dit déjà ? De l'artistique, enfin.
Ouais.
Du level design.
Une espèce de step qui oui. est vraiment à la gueule. Enfin, franchement, c'est.
Ouais, je trouve que ça a du style, quoi. Sans parler de la technique, les environnements en imposent quand même par leur grandeur, je trouve que.
Bon, après, je t'avouerai qu'après The Witcher 2, bon, en même temps, c'est pas la même taille des décors, hein. Faut être raisonnable aussi. The Witcher 2, c'est quand même des environnements à la Baldur's Gate, c'est-à-dire des maps assez fermées, tu vois. Alors que là, c'est quand même des environnements ouverts. Et pour des environnements ouverts, c'est vrai que. Franchement, sur le plan artistique, ça a de la gueule, quoi.
Donc, franchement, si vous aimez les RPG à l'occidental, c'est le jeu à surveiller en cette fin d'année, franchement. Bon, par contre, un qui, selon moi, sera peut-être un peu moins à surveiller et qui n'est pas occidental, mais du côté de nos amis japonais, c'est Final Fantasy XIII 2. Alors, on avait le bon souvenir du 10-2. bah, Tyran, tiens, toi qui as particulièrement aimé le changement de design de l'héroïne.
Ouais, bah alors Final Fantasy XIII, moi c'est un jeu qui me laissait assez mitigé parce que pour une fois j'appréciais le personnage dans un Final Fantasy, enfin le personnage principal, ce qui est assez rare venant moi, mais et aussi je trouvais le système de combat sympathique, même si je sais qu'il a fait hurler beaucoup de fans de la série, mais moi justement je ne suis pas un fan de la série, donc ça tombe bien.
En tant que fan, je le trouve vraiment sympa. Hein.
Mais c'est vrai qu'il avait un problème. Pour moi, le problème du jeu, c'est pas tellement que c'est un couloir, parce que finalement, les jeux japonais, ça a toujours été un couloir plus ou moins déguisé. Sauf peut-être dans un Skies of Arcadia où la world map était tellement immense que l'illusion d'avoir un jeu libre était là, mais c'était qu'une illusion, faut dire ce qu'il y a. Mais le problème, c'est que déjà il n'y avait pas de ville. Enfin, si t'avais une ville au début, mais c'était même pas une vraie ville, quoi. Avec enfin, à part au tout début où il y avait une petite ville, mais c'est même pas quoi. C'était un couloir avec des PNJ dedans, en fait. Je veux dire, et le problème, c'est qu'il n'y avait pas de pause. Pour moi, c'était surtout ça le souci. Il n'y avait pas de pause entre les phases de bashing de mobs, etc. C'est avancer, t'avancer, histoire, bashing, histoire, bashing, histoire, bashing. Enfin, voilà, quoi. Et du coup, tu te rendais compte vraiment que c'était un couloir, quoi. Alors que dans les autres jeux japonais, généralement, tu t'en rends moins compte. Parce qu'ils arrivent à varier un peu les plaisirs, tu vois. Et donc, du coup, Final Fantasy XIII 2, donc pour revenir à lui, ils ont annoncé que le retour de la world map. Alors, à quoi ça va ressembler?
Moi, j'attends de voir. Trois points et tu pourras choisir lequel.
Moi, j'attends de voir parce que bon, depuis Skies of Arcadia, je suis devenu très, très, très exigeant sur les world maps. Pour moi, très clairement, Skies of Arcadia, c'est le jeu où il y a la best world map ever, qui est une world map en trois dimensions où t'as des masses de trucs à découvrir, enfin, un truc de malade. Donc, une world map, oui, moi, je veux bien, mais faut qu'il y ait des trucs dedans. Des villages, apparemment ils ont annoncé des villages avec des PNJ dedans, même qui discutent, tu vois, un truc de fou. Sauf que bon, du coup, bon, moi le souci c'est qu'entre temps j'ai joué à The Witcher 2, les mecs, hein, donc mais, même s'il n'y a pas de world map effectivement dans The Witcher 2...
Ils veulent vendre hein, The Witcher 2, ils doivent avoir des actions là-bas.
Putain, si seulement, mon dieu. mais franchement, le truc, c'est parce que apparemment, en fait, les PNJ, ouais, ils discuteront entre eux, mais en fait, tu verras que des bulles de texte. Et ça, ça fait un peu, je veux dire, on est quand même en 2011, les mecs, là.
Et c'est surtout, si c'est pour qu'ils sortent tous, bonjour, des trucs comme ça, ouais. C'est même pas la peine, il y a discussion, il y a discussion.
Pire si c'est pour faire comme genre dans Bijon, où c'était bonjour, il fait beau, je vais faire mes courses, d'accord. Enfin, tu vois, les dialogues, observer les dialogues dans Oblivion, des fois, c'est assez cocasse, hein, c'est wouh. Mais voilà, enfin, après, bon, l'ambiance, j'ai envie de dire, ils ont détruit, je suis assez sceptique sur l'ambiance de ce qu'on a pu voir parce que, bon, le design de FF13, disons qu'il y avait des trucs qui me plaisaient, il y avait des trucs qui me plaisaient moins. Mais là, le problème, c'est que ce que j'ai vu, c'est les trucs qui me plaisaient moins, en fait, qui se sont généralisés, donc...
Bonne nouvelle, wouh.
Genre, mais Lightning, putain, mais j'ai fait une crise, quoi. Ils ont massacré le design du perso en lui foutant une armure médiévale, mais qui ressemble à rien, en plus.
Surtout, mais qu'est-ce que ça vient foutre là, j'ai envie de dire, parce que... ouais... Ça va pas avec le reste, moi je trouve.
Et ils ont annoncé aussi des QTE apparemment dans les scènes de dialogue.
Toi qui adore ça.
Ah ouais, moi qui suis fan. Et pourtant Dieu sait que j'aime Shenmue à la base, mais c'est pas la plus grande trouvaille de Yu Suzuki. Hein. Franchement, enfin bref, j'attends voir avec une certaine circonspection. Comme d'hab avec Final Fantasy, j'ai envie de dire. Je pense que ça sera pas le RPG du siècle non plus, quoi. Sauf que contrairement aux fans qui sont persuadés que les précédents plus sont des chefs-d'œuvre, moi ça, j'en attends pas plus que ça à la base non plus, hein, donc.
Ouais, bon, de toute façon, toi et les Final Fantasy, il faut dire l'objectivité.
Je sens que je vais me faire des amis avec les fans de Final Fantasy.
Oui, non. c'est quand même une grande série, mais faut avouer que le 13 était un peu niveau RPG assez étrange pour être. Politiquement correct. Donc, on va passer maintenant à Ruin. Et ben là, tu vas encore parler, non? Je crois que c'est toi qui voulais en parler de Ruin.
Oh, je suis un peu le spécialiste SRPG de la rédaction. Donc, alors Ruin, ouais, non, le problème de Ruin. Alors Ruin, oui, le Diablo-like en fait. Enfin, le même pas Diablo-like, le clone de Diablo 3. Ouais. Mais oui, c'est l'un des rares jeux originaux de la PS Vita, n'est-ce pas?
Originaux entre guillemets.
Ouais, n'est-ce pas, mamie, hein, je sens que tu trépidais pendant la conférence.
Ah oui?
Je sens que ça t'a excité d'un coup comme ça.
Oh, ils vont montrer merde. Diablo 3 sur PS Vita. Ah bah non, ah non, merde.
Ah mais, ceux qui sont là peuvent témoigner pendant la conférence. J'ai hurlé, j'ai fait, mais c'est quoi ce clone de Diablo, quoi? C'est clairement un clone du Diablo, quoi.
Faut dire, ah mais il l'a dit au bout de deux secondes, quoi. Mais c'est Diablo?
Voilà. Voilà, mais même chez Gamekult, ils l'ont dit, hein. Donc, chez nos amis Gamekult, c'est voilà quoi, Diablo-like avec apparemment des petites options sympathiques au niveau de la PS Vita avec
si c'est bien fait.
Apparemment les autres joueurs seront nos concurrents si j'ai bien compris. Enfin bon. Ouais. Ça a l'air sympathique mais ça ressemble tellement à Diablo que voilà quoi.
Autant prendre, oui, mais pourquoi
autant,
pas
autant prendre l'original.
Voilà pourquoi. Non mais oui, bah l'original. Oui, mais...
L'original arrivera jamais sur PS Vita, donc.
Ben voilà.
Bon. Ouais, mais ayez des goûts, merde, achetez un PC.
Oh. D'accord, donc bon, bah, le tyran, c'est bon, tu n'as plus le droit de parler. Donc, un RPG à rajouter dans la liste.
Je crois pas, non.
On n'a pas eu tant de temps, en fait.
Il y a un action RPG, mais j'en parlais dans mes coups de cœur tout à l'heure.
D'accord, donc on va maintenant parler. Des jeux d'action-aventure. Ah, non, Mordrain, tu voulais parler de Paper Mario, mais fallait le dire.
Ouais, non, je l'ai glissé, mais vite fait, sauf que j'ai parlé en même temps que vous, donc ça marche pas.
Ah ouais, désolé. Vas-y.
Donc, désolé. En gros, Paper Mario, c'était quand même... ça va sortir sur 3DS, en fait, et c'est quand même un des jeux qui, selon moi, légitime le plus l'effet 3D. Puisque je sais pas si vous voyez la tronche d'un Paper Mario, mais c'est ouais, ouais. Vous avez les personnages en forme de papier en fait, avec différents plans en 3D. Et donc du coup c'est plutôt bien fait, ça donne un certain cachet au jeu très très original. Et je pense que sur 3DS il y a moyen de faire quelque chose de très très sympa. Et on a vu des images donc de ce nouveau Paper Mario sur 3DS qui sont ma foi très très intéressantes,
oh, oui.
Très, très jolies. Je suis assez séduit.
Voilà, donc on a aussi le badge approuvé par Mordrain qu'on pose sur le Paper Mario. Donc, si vous voulez bien, on va accélérer qu'ils vont pas faire quelque chose de 3 ans. On va maintenant passer à l'action-aventure. Là, on a des grosses épées ou des petites, c'est au choix. Et on va parler d'abord d'Assassin's Creed Revelation.
T'as vu ma grosse épée, hein? T'as vu?
Grosse voiture, petite... Donc, Assassin's Creed Revelation.
Oui, enfin. Enfin, on en connaît un petit peu plus sur le nouveau Assassin's Creed. Donc, bon, je vais pas vous la refaire, mais on était assez sceptiques. Hein. Vous avez déjà entendu nos
c'est pas qu'on aime pas Ezio, mais bon.
Nos podcasts précédents, mais c'est vrai.
Il est bien sympa le petit Ezio, mais bon.
voilà. Donc, on se disait que peut-être ça faisait le coup de trop avec Ezio. Bon, on est assez, rassuré au niveau de, ne serait-ce que en qualité graphique et
oui.
Technique. C'est vrai que ça, il y a quand même eu un certain raffinement entre Brotherhood et Révélation.
Bon après, les faces qu'ils montraient n'étaient pas, je pense, ils ont fait un choix très judicieux, car oui. Les gros défauts de la série, c'était surtout du clipping et les décors qu'ils montraient, ben ils avaient l'avantage de finalement, on pouvait pas trop voir s'il y avait du clipping ou pas.
C'est vrai, je suis d'accord. Mais en termes de modélisation des visages,
ah,
il y
oui.
a quand même
ah,
eu ouais. un petit un pas quand même parce que c'était quand même un des soucis des Assassin's Creed 2 sur
ils avaient tous un strabisme. C'était ça, énorme
ça. Donc franchement faire un héros avec du charisme et un strabisme faut le faire
et, ils ont réussi hein.
Donc bon mais en tout cas je pense qu'il y a encore possibilité de faire un truc intéressant s'ils s'en donnent la peine et je pense qu'ils sont capables de faire ça. Bon, le problème, c'est, enfin moi, ce que j'ai un petit peu relevé au niveau de la démonstration, c'est que c'était vraiment too much au niveau de l'action, où vraiment Ezio tout seul se tape tout le port de Constantinople.
Moi, c'est un défaut que je trouve. Plus ça va, moins c'est crédible, hein, quand même.
Ouais, moi, je veux bien, mais bon, va peut-être falloir s'arrêter au bout d'un moment parce que
avec sinon,
après Ezio il part de l'espace. Hein.
Après, avec son super lance-flamme de la mort qui tue.
Ouais,
ouh, c'est ouais. Une lance-flamme qui tire à 300 mètres.
Enfin, en tout cas, je crois que tout le monde n'aura qu'une envie, c'est que ce jeu porte bien son nom, parce que des révélations, on en veut, parce que finalement, on sait même pas dans quel sens ils partent, hein, avec cette série, parce que ils se sont embourbés dans des choses assez compliquées.
Ouais, mais je crois qu'en fait, les révélations, ce sera les révélations sur l'univers d'Ezio et moins sur les... sur l'histoire de Desmond, en fait.
Moi, j'ai vu quelques phases de teaser avec Desmond où il montrait des environnements assez particuliers. Donc, j'attends de voir ce que ça a donné, mais à mon avis, Desmond aura un rôle aussi.
Bon, bah alors, j'attends de voir aussi, parce que c'est vrai que c'est... On attend quand même depuis, je sais pas, depuis Assassin's Creed 2 et Assassin's Creed Brotherhood, des révélations là, sur ce côté-là. Donc, ouais, si elles sont vraiment présentes, ça peut être intéressant sur celui-là.
Donc, ensuite, on va passer à Darksiders 2, qui on en a déjà parlé, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Changement de héros, à mon goût, le héros est moins bon.
Oui.
Ça, c'est personnel, mais je vous renvoie à nos précédents... voilà, c'est ça, en gros. Je vous renvoie au précédent podcast, parce qu'on a tout dit, on en a parlé assez longtemps, alors qu'on n'a pas vu grand-chose.
C'est vrai.
Donc, passons au... voiture, au jeu de course, Vroom Vroom fait la voiture dans Forza 4, qui sera le premier jeu auquel on va parler. Forza 4, c'était un peu trop beau, non?
C'est vrai que c'était super beau, on se demande vraiment trop encore si c'était vraiment des images in-game en fait. C'est tout à fait possible, hein, les connaissant. Hein. Et c'est vrai que avec Gran Turismo 5, qui est quand même un petit peu dans la panade au niveau critique, il y a moyen pour Forza Motorsport en fait de creuser la tombe de son concurrent direct, puisque déjà avec Ford, on a déjà eu des personnes qui disaient préférer Forza Motorsport 3 à Gran Turismo 5. Donc bon, ça peut quand même vouloir dire que Forza 4 a les armes avec lui.
Surtout quand tu vois le temps qu'ils mettent à faire un Gran Turismo. Ils ont le temps. Après, c'est pas les mecs au Gran Turismo.
Ouais, enfin, attends, vu ce qu'ils disaient, limite que le 6 sortira avant le 5, si tu les écoutais. Donc le 6, avec de la chance, on l'aura pour avant la PS4, qui sait.
Non, ce sera sur PS4, c'est sûr.
Ah, peut-être sur PS5, on n'est pas sûr, ou sur PSP3. Non, mais pas grand-chose à dire, parce que finalement, on n'a pas vu grand-chose, non?
Oui, non, mais bon, ça part sous de bons auspices, en tout cas. Et ils ont les cartes en main, en tout cas, par
Sachant qu'ils ont annoncé un volant sans fil, qui irait avec Forza Motorsport 4. Donc,
Bon, les fans de jeux de caisse sont déjà des bons volants, je pense.
Ouais, je pense qu'ils sont déjà équipés comme il faut. Bon.
Donc, passons à un jeu qui se veut nettement moins réaliste, Mod Nation Racer sur PS Vita. Donc, il y a quelques features assez intéressantes, comme le fait de pouvoir récupérer le contenu des joueurs PS3.
Ouais, ils ont montré aussi la création de circuits sur PS Vita, et franchement, ça m'a vachement bien branlé. Enfin, moi, je trouvais... parce qu'il m'a impressionné, moi, vraiment...
Il s'y connaît en branlette.
Ce qui m'a impressionné, vraiment, c'est que ça tournait, mais vraiment impeccable, quoi. Il n'y a pas un pack de ralentissement, pas un pack de chargement, rien... franchement, ça tournait nickel.
Et c'est un jeu que je vois bien sur portable, moi, perso.
Oui, moi aussi.
Franchement, ça exploitait bien les possibilités tactiles de la console, je trouve.
Bah, de toute façon, il est déjà sorti sur PSP, non?
Oui, il me semble.
Donc, non, mais il y a moyen de faire quelque chose de vraiment bien. Et au niveau de l'éditeur, c'est vrai que c'était très impressionnant. Hein. Je te rejoins là-dessus. Et puis, pareil pour Little Big Planet, qui a l'air bien pensé aussi pour la PlayStation Vita. Pareil avec la récupération du contenu PS3 de tous les joueurs PS3 directement avec l'achat de Little Big Planet sur PlayStation Vita. Donc,
on parlait tout à l'heure des liens entre PS Vita et PS3, c'est exactement ça.
C'est vraiment fait pour.
Sinon, dans le même genre où construit les circuits, il y a le prochain, comment il s'appelle déjà, messieurs?
Trackmania.
Trackmania,
voilà.
Donc Trackmania, moi j'attends de voir, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, Trackmania, moi c'est le jeu qui me donnait la nausée, mais au sens littéral du terme.
Ah ouais, moi j'ai beaucoup joué. Hein.
Je n'arrive pas à jouer à ce jeu en fait. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. À chaque fois que j'y jouais, j'avais des nausées pas possibles.
Les grands ordinateurs sont encore mauvais à cause de ça.
Je sais pas si c'était les loopings ou les trucs comme ça, mais je n'arrivais pas à jouer à ce jeu, c'était impossible. Au bout de 5 minutes, et Dieu sait que j'avais envie d'y jouer, hein, mais
ça changera pas, hein. Un Trackmania restera un Trackmania, mon vieux, hein. Alors là.
Mais c'est non, mais je veux dire par exemple un Wipeout ou machin où les circuits sont quand même assez tortueux, j'ai jamais eu ça quoi. Alors que là, je sais pas si c'était un truc si je préparais crise d'épilepsie, je sais pas, mais
on fera ça, pas bien, on t'enverra des vidéos de Trackmania comme ça pour te surprendre un peu
pour le punir.
Mais voilà. En tout cas avec leur plateforme donc qui va permettre d'héberger tous les contenus créés pour Trackmania, ça s'annonce ouais, ça s'annonce à part, quoi. C'est la suite du premier, quoi. Mmh.
Donc, on enchaîne, parce que finalement, on va faire comme une conférence Sony, là, ça va être très long. On enchaîne sur un jeu qui, auquel on a déjà beaucoup parlé. Une déception, car on a espéré 10 secondes, on a été déçu pendant les 2 minutes restantes. Je parle bien sûr de Need for Speed, The Run, qui est un mélange de Mirror's Edge, justement, comme on avait espéré, de Heavy Rain et d'un jeu de course. Très rapidement, quelqu'un veut dire à quel point
explique pourquoi tu compares Heavy Rain à un jeu de course quand même. En gros, c'est parce que c'est ultra scripté et il y a des QTE mais de partout.
En fait, l'idée, le concept, c'est qu'il y a des moments où on va sortir des caisses, il va y avoir des phases de course poursuite.
C'est à moitié un jeu d'aventure.
Sauf que les phases de course poursuite, on espérait que ça serait du bien rosage, mais en fait, c'est du Heavy Rain. Voilà. Mmh. Je pense qu'il y a rien d'autre à rajouter dessus. Ouais. Pour moi, ça n'a aucun intérêt.
Ça c'est le tyran, hein, ça a un intérêt quand même.
Ah bon, ça a un intérêt les QTE
Oui, quand même.
Tu trouves ? Bon, d'accord.
C'est critiquable, mais ça a quand même un intérêt.
On peut pas leur reprocher d'essayer de nouvelles choses, mais bon, là je pense qu'au niveau de la réalisation, je veux dire que, enfin, au niveau de la mise en scène, c'est super bien. Il y a de l'idée. Je pense que sur la longueur, ça va vite être pénible, en fait.
Ouais, surtout ce qu'on nous a montré, c'était un peu binon. Ouais, vas-y, le mec, il saute, il pique la voiture de flic. 3 secondes après, il se retrouve à 2 doigts d'être sous un train. Mais on se croirait dans 24 heures, machin, là. Il arrive des trucs de fou, mais j'imagine pas tout un jeu comme ça. Surtout qu'il y avait la moitié de QTE, la moitié de course. Hein.
Parce qu'en fait, le principe du mode solo, si j'ai bien compris, c'est un fugitif, en fait, qui traverse les États-Unis. Alors, vous imaginez, traverser les États-Unis... Et être arrêté sous un tramway ou sous un bus toutes les 30
secondes. Attends, et s'il faut voler le camion à poules du premier paysan venu, je sens que ça va être le truc, ouais. Bon, à prendre avec de très grosses pincettes. Donc, pour continuer dans les jeux pourris, bon, là c'est particulièrement subjectif, Driver San Francisco.
Bon, en même temps, on n'a pas vu...
Alors, explique pourquoi c'est pourri, en fait.
Oh, j'irai pas m'avancer. Non, je peux pas le dire objectivement, sinon je vais tourner dans le troll. J'ai déjà trop trollé pour ce podcast.
D'accord, ok.
Non, mais je veux dire, on en a en plus, on critique, finalement, oui. Qu'est-ce qu'on en a
dit? Non, mais moi, c'est que je le sens pas, en fait. Hein, c'est ça.
Mais moi, j'ai rien à critiquer pour le moment, en fait. Ça a l'air d'être du Driver pure souche, en fait. Donc bon, c'est vrai que si t'aimes pas Driver, c'est sûr que... Tu n'as pas aimé San Francisco. On n'a pas encore vu la fonction dont je vais parler la dernière fois, de sortir de sa voiture et d'en choper une autre dans la foulée. Bon, moi j'attends de voir du gameplay quand même pour voir comment ça marche ce système-là.
Mais moi j'ai du mal à les voir revenir après toutes ces années, quoi. C'est surtout ça en fait. Bon, on verra bien.
On verra bien.
Ouais, on verra.
Donc on va speeder sur deux jeux qui sont finalement des dignes suites, Mario Kart 3DS et un Wii Pood. Bon, ben c'est quoi? C'est du Mario Kart.
c'est du Wipeout.
Voilà. Mario Kart avec quelques petites nouveautés apparemment, des nouveaux véhicules, etc. Ça a l'air vachement sympa.
Ouais.
Juste un petit mot quand même sur Mario Kart. J'espère qu'ils vont les spécialistes de Mario Kart reconnaîtront de ceux dont je vais parler. Les autres ne comprendront probablement rien. J'espère qu'ils vont régler enfin ces putains de problèmes de snaking parce que moi je n'en peux plus. Pour ceux qui ne savent pas, le snaking en fait, c'est dans Mario Kart DS, donc il y avait les dérapages. Mm. En fait, dans les dérapages, tu sais, tu fais flèche gauche droite, t'appuies sur un bouton et ça lance le boost en fait.
Ouais.
Et il y en a, donc ce qu'on appelle le snaking en fait, c'est le truc, tu fais un dérapage à gauche, t'accélères, tu refais direct à la droite, t'accélères, enfin, c'est comme un serpent, oui. Tu vois, comme ça.
Même en ligne droite, en fait.
Bon, après, c'est respectable parce que, mine de rien, les mecs qui font ça, ils ont du skill, faut dire ce qu'il y a. Mais, du coup, le problème, c'est qu'il y avait, ceux qui maîtrisaient le snaking et les autres, quoi. Et, c'était assez chiant, quoi. Des gens quittaient la partie au bout de 2 secondes, enfin, c'était vraiment, c'était vachement pénible, quoi. Donc, j'espère qu'ils vont régler ça.
Ouais.
Donc, passons rapidement à la plateforme, et on va rester dans le Mario, puisqu'on, il y a eu Mario 3DS. Oui! Oui! Oui, j'ai envie de dire, enfin le Mario sur 3DS.
Et il en a mis partout, c'est dégueulasse.
Oh! Ouais, bref. Mais comment veux-tu enchaîner après ça? qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce Mario 3DS?
Mario, bah, c'est le nouveau Super Mario, quoi. Donc, forcément, ça va vendre des 3DS. It's a me. Et voilà, donc c'est vrai que ce qu'on en a vu, c'est très, enfin, ça donne envie en fait. C'est un mix entre le New Super Mario Bros. Wii et le Mario Galaxy. Donc ça peut donner vraiment quelque chose de bien. Et on sait que Nintendo a à cœur de soigner ses Mario en mode plateforme. Donc ouais, ça, je pense que ça va être un vendeur de 3DS à fond.
En plus, ils ont ramené certains trucs old school, comme le Mario raton laveur.
Ouais.
Voilà, ouais, ce que je voulais dire. Donc, finalement, ça s'annonce du bon. Hein. Oui. Une valeur sûre. C'est aussi simple que ça. C'est enfin une valeur sûre sur...
Mais a priori, l'effet 3D est plutôt pas mal, de ce que j'en ai entendu. Donc, ouais, ça peut donner quelque chose de bien.
Donc, sinon, enfin, un Sly Cooper. On s'en doutait avec la collection avec laquelle on avait un petit teaser à la fin de Sly Collection. Eh bien, il arrive Sly Cooper Thieves of Time. C'est le prochain Sly Cooper, enfin,
dire. Ouais. Et donc, a priori, on va avoir le droit à un changement de héros. Alors, c'est encore assez énigmatique. Hein.
Ça, par contre, je le sens pas.
Moi aussi, je le sens pas trop, mais bon... On va leur laisser le bénéfice du doute, voilà.
On n'a rien vu en même temps, on a juste vu un trailer super beau, d'accord, mais un trailer quand même.
Exactement.
C'est que j'aimais bien le héros, moi, en fait, c'est pour ça. Je trouvais qu'il avait vraiment un petit cachet, comme ça.
Ouais, et bon, par contre, en termes d'unité esthétique, elle est complètement gardée, donc déjà, on est content.
Oui.
Je suis très content de voir.
Je rappelle, on dit ça sur une cinématique. Hein,
oui, donc, bien sûr. C'est vrai.
Voilà, ne nous avançons pas parce que c'est la sorte, on va être très très déçus. Hein, donc.
Normalement, sauf grande catastrophe type Titanic, ça devrait le faire. Hein.
Oui.
Avoir peut-être sur le héros.
J'espère. Donc il va falloir en attendre un petit peu plus quand même, être patient et puis croiser les doigts pour que ce soit bon.
Donc, on va passer maintenant à un jeu qui s'annonce excellent, mais on va pas trop s'y attarder, parce que vous l'avez déjà dit qu'il était excellent, c'est Rayman Origins.
L'un des jeux de l'E3, non?
Ouais,
carrément,
on est
carrément.
D'accord.
Très joli.
Ah, oui. Mamie.
Oui, c'est clairement l'un des jeux de l'E3. C'est le retour... non Nintendo à la plateforme 2D comme on l'aime, hein. C'est joli, c'est coloré, c'est
Ubisoft. Il y a pas de lapin crétin. Oui.
Il y a pas de lapin. Surtout aucun lapin crétin. Et retour à l'univers de Rayman tel qu'on le connaissait depuis Rayman 2 plus que Rayman 3 parce qu'il a l'air ils ont enlevé tout ce qui était un peu dark du Rayman 3. Et c'est retour même à Rayman premier du nom avec des ennemis qu'on
d'où le Origins quoi.
Et voilà, pour Rayman.
Ensuite,
que je trouve quand même qu'il ressemble beaucoup, mine de rien, il y a un petit air de New Super Mario Bros. Dedans. Notamment les phases à deux, genre, où il y a déjà il y a un coup
à 4. Ouais, mais il arrive à garder son cachet.
Attends. Il y a un coup à 4 comme dans New Super Mario Bros. Quand il y a un perso, il y a un joueur qui se fait avoir, il réapparaît sur la forme de bulle qui suit les autres. Ils ont repris plein de petites mécaniques sympas comme ça de New Super Mario Bros. Voilà.
Mais il n'est pas dénaturé.
Non, il n'est pas dénaturé du tout. Hein. C'était juste pour préciser. C'est un compliment de ma part. Hein. Je trouve qu'ils ont repris les bonnes idées de Super Mario Bros. Hein,
voilà. Ensuite, Sonic Generation.
Alors, moi, Sonic Generation, je l'attends beaucoup. Donc, c'est le Sonic qu'ils vont refaire pour les 20 ans de la série. Donc, Sonic Generation, qu'est-ce que c'est? Donc, ils vont revisiter tous les Sonic tous les Sonic depuis 20 ans en refaisant certains niveaux. Donc ils seront jouables soit avec la jouabilité du Sonic 3D actuel, soit jouables avec la jouabilité du Sonic Old School. Donc ça veut dire, par exemple, là récemment il y a eu un trailer d'un niveau, le tout premier niveau de Sonic sur Dreamcast, enfin de Sonic Adventure 2, où donc si pour ceux qui se rappellent pas, qui s'est déroulé dans San Francisco avec une phase de snowboard, excellent niveau d'ailleurs. Et en fait, donc du coup c'était vraiment sympa à voir parce que t'avais donc la phase Sonic Old School avec vue de côté et tout qui te faisait totalement redécouvrir le niveau. Et donc la phase en 3D qui faisait un peu nostalgie, séquence nostalgie, tu vois, où tu redécouvrais ce Sonic Adventure 2 que j'ai tant aimé personnellement, vu que c'est mon Sonic préféré. Voilà. Mais vraiment un Sonic que j'attends beaucoup, beaucoup, d'autant plus que la série commence à reprendre des couleurs depuis Sonic Colors, notamment. Qui
oh,
vraiment,
quel jeu de mots.
Qui est un très... je m'en suis même pas rendu compte si j'en ai fait. Hein.
C'est ça le talent.
Depuis Sonic Colors, qui vraiment, vraiment qui la série revit quoi. C'était un très bon épisode et je pense qu'ils sont sur la bonne voie.
Ouais.
Donc on enchaîne tout de suite, vite, vite, vite sur Kirby. Oui.
Ah Kirby, oui. Alors a eu le.
Oui.
Quand même, Kirby est arrivé l'an dernier, hein, le dernier. Le dernier épisode de Kirby, c'était Kirby au fil de l'aventure qui était sorti en février, c'est ça. Et donc qui était franchement bien, même si très enfantin et ultra
trop
accessible,
facile.
trop facile. Mais bon, là, on arrive sur un tout autre monde graphique en fait. C'est vraiment le retour de Kirby en modélisé en 3D. Ça fait vraiment penser à l'épisode qui était sorti sur Nintendo 64. Avec un défilement des niveaux, de gauche à droite en fait, comme un niveau de plateforme habituel. Et donc tout est fait autour de la transformation de Kirby. Donc c'est vraiment un retour aux sources en fait de Kirby. Ça s'appelle Kirby Wii. Et bon, je pense que de toute façon, ce sera un des derniers jeux de la Wii.
Ouais, donc jetez-vous dessus parce que j'aurai pas d'autre.
Voilà. Ça signera son arrêt de mort, voilà.
De toute façon, vous n'avez pas le choix, si vous voulez jouer sur Wii, vous êtes obligé de l'acheter.
Et j'espère que ça signera le testament de la Wii de bien belle manière, en tout cas.
On l'espère, en tout cas, parce que ce sera ça, hein, vraiment. Donc, oui.
J'espère.
Voilà. Donc passons au sport, domaine.
Il y a un Kirby DS hein, qui a été annoncé, Kirby Critical, c'est Critical Mass il me semble. Donc je vais parler juste deux petites secondes dessus, que on a oublié de le citer. Donc c'est un Kirby qui va énormément jouer en fait sur apparemment le nombre, vu que Kirby pourra se démultiplier. Et donc à la manière d'un locoroco un peu activer des mécanismes qu'il peut pas activer seul. Donc le problème apparemment c'est que il ne peut pas le problème c'est pas un problème mais il ne pourra pas avaler ses ennemis comme Kirby a l'habitude de le faire et donc tout va jouer sur cette masse comme le nom l'indique de Kirby. Donc à voir hein, pourquoi pas.
Oh. Intéressant.
Ouais, ça a le mérite d'être original au moins. Hein.
C'est sur DS, oui, j'ai oublié de le dire. C'est DS et 3DS, hein, pas sur Wii.
De toute manière, ils ont l'habitude avec les Kirby d'essayer plein de choses. Après, ça marche pas, mais c'est vrai que Kirby, c'est une série qui est assez métamorphe, en fait.
Oui, bah, comme le personnage.
Comme le personnage, exactement.
Donc, bah, passons maintenant au sport. Bon, là-dessus, on va pas pouvoir vous dire grand-chose. Déjà, NFL qui a été... On nous a montré un peu vite fait avec des joueurs en guest, hein, des mecs, des armoires à glace. Mais c'est pas notre spécialité. Quelqu'un est capable de dire quelque chose dessus, parce que moi j'ai jamais touché à un NFL de ma vie.
Oui, NFL, j'en ai touché un ou deux.
Des joueurs ou...
Non, des deux.
Oh mon Dieu. On voit qu'on est fatigué là.
Ouais, c'est un peu long, tu vois.
Donc NFL, oui, bon, il a l'air classique. Hein, c'est un NFL dans la grande tradition. On n'en a pas vu grand chose à part donc Madden qui faisait sa petite pub. Mais bon, pourquoi pas, hein, c'est comme les FIFA, ça va, ça vient, mais c'est toujours la même recette, donc bon, à voir.
Bah justement, FIFA, rapidement, on nous l'a présenté, ça a l'air encore une fois assez beau, enfin même très très beau.
La match graphique est bien, quoi.
Voilà, surtout au niveau des animations, on nous annonce des animations, en fait, notamment au niveau des collisions, qui sont beaucoup plus poussées qu'avant, en fait, ce sera vu au cas par cas, enfin, ça va vraiment être un truc de fou par rapport aux collisions. Ça va ajouter vraiment du contenu, de la fraîcheur au jeu, je pense que ce sera assez sympathique. Mais finalement, ça reste FIFA 11 en mieux, quoi.
Oui, bah, de toute façon, les fans du jeu seront très contents. Hein,
voilà, c'est ça. C'est, si vous aimez les FIFA, bah, comme d'habitude, c'est mieux que le dernier, il faut le prendre, si vous avez l'argent. Et si vous aimez pas, bah, c'est pas celui-là qui fera que vous aimerez. Ouais. Donc, on va passer à un jeu de sport qui est ô combien plus intéressant. SSX. Donc, bon, on va pas trop s'y attarder. Enfin, remarque, tu en avais pas beaucoup parlé vu que j'étais pas là.
On a fait passer ta parole.
Oui, oui, j'ai écouté. Oui, la parole divine a bien été passée. Non, mais finalement, on n'en a pas vu grand-chose. On a même vu plus à côté de l'E3 que véritablement dans l'E3. Mais comme a dit Mordren lors du dernier... Non, c'était pas le dernier podcast, mais lors du podcast pour la conférence... c'était quoi,
Electronic Arts.
Oui, voilà. Donc, bah, finalement, ça a l'air d'être dans la veine des SSX, plus que ce que nous montrait en fait tout au début l'espèce de trailer teaser qu'on avait eu. On pouvait s'attendre vraiment à un truc assez space, mais non, finalement, ça s'annonce un bon SSX. Juste, hein, comme avait dit Mordren, le fait que la neige se modifie à moitié quand on atterrit après un bon trick. Et que ça stoppe l'action une ou deux secondes à chaque fois, mais franchement, je sais pas comment ça va se passer une fois qu'on aura la manette en main, mais ça a l'air vraiment de couper tout ça assez de manière assez rude. Mais bon, on verra bien, en tout cas ça s'annonce extrêmement sympa, et chose ultra prometteuse, c'est que j'ai l'impression de voir le SSX3 dans ce SSX. J'ai l'impression de revoir le 3, qui est à mon goût largement le meilleur opus de la série, après... c'est personnel, mais et ça s'annonce du très bon pour quiconque aime cette série. Donc, on enchaîne. On avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'infiltration au début de ce podcast. Eh bien, effectivement, on n'a pas beaucoup d'infiltration, car on a très rapidement eu Hitman, qui a été, présenté, entre guillemets, mais ouais, pas vraiment.
On a eu un trailer,
ouais,
mais
ça, voilà. Ça change, de toute façon, les previews qu'il y a pu avoir dessus vont vraiment pas envoyer, hein. Je vous le dis tout de suite. Ça a l'air, ils ont l'air d'avoir casualisé le truc, mais à mort.
Ah donc, ouais.
Genre par exemple avant, tu vois, tu checkais ta map pour regarder où est-ce qu'il était planté, pour regarder les rondes des gardes, etc. Là maintenant, t'as un truc qui permet, une fonction qui permet de voir à travers les murs. Enfin bon.
D'accord. Ah ouais, c'est sympa. En fait, c'est ouais, l'agent. C'est combien, l'agent 47, non?
47.
Ouais, l'agent 47.
Qui a un œil bionique. C'est ça.
Bon, en fait. Voilà, moi j'en attends rien et c'est tant mieux, quelque part.
Ouais, ouais, on verra bien ce que ça donne, mais finalement, Tyran, l'expert en assassinat et en chauve, je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, s'il n'en attend pas grand chose, à mon avis, on peut le croire. Donc, rapidement, maintenant, on va passer au coup de cœur personnel, on va essayer de parler de jeux qu'on n'a pas trop cités avant. Donc on va commencer par Mamie, qui a... Bah tu voulais parler de Rayman, mais finalement je crois qu'on va le sauter, lui.
Fait, hein.
Ouais, donc Arkham City, le Batman.
Oui, Batman Arkham City, qui a l'air au moins aussi bien que Arkham Asylum, qui
est vraiment
magnifique et génial.
C'est-à-dire incroyable, s'il est...
Voilà.
Pareil.
Fucking amazing.
Yeah.
Oh my god.
Oh my god.
Plus grand. Batman plus balèze et on peut donc jouer Catwoman, hein, ce qui a été annoncé à l'E3.
Oh,
et pourquoi pas. Pourquoi pas, mais moi en tout cas j'attends énormément, hein, vu le niveau du premier. Voilà.
Donc ensuite tu voulais parler de Star Wars The Old Republic.
Ah oui, bon, comme vous savez, moi les mémos j'aime beaucoup et et Star Wars aussi. Et ça tombe bien,
voilà.
Hein,
ça bien.
À son MMO. Et pendant le 3, on a pu voir des phases de gameplay, hein, la petite nouveauté, une grosse phase de gameplay. Et il a l'air fort intéressant parce que très scénarisés et donc et des scénarios surtout sous forme de dialogue. Et voilà, donc moi j'en attends énormément. On n'a toujours pas de date de sortie, mais il a l'air presque finalisé en tout cas.
Oui, surtout vu qui est derrière, ça a l'air quand même d'être une valeur sûre.
Oui, voilà.
Ouais, lui, non, c'est après, BioWare. Hein. Oui, après, ça a beau être BioWare, je veux dire, faire un MMO, un jeu solo, oui. C'est pas du tout la même chose. Hein, donc,
c'est ça.
Oui, non, mais je veux dire...
Je connais des studios qui faisaient d'excellents jeux solo qui sont cassés les dents sur les MMO, hein, donc...
Ouais, et on entend pas mal de trolls qui disent ouais mais en fait The Old Republic c'est pas un MMO en fait, c'est un RPG déguisé.
Non mais ça bon.
Mais ça entre guillemets ce serait intéressant parce que ça toucherait une niche du public que WoW n'arrive pas à avoir.
Au pire ce serait un très bon RPG en tout cas.
Voilà. Oui bah moi en tout cas je demande pas mieux. Hein.
Donc Tyran, là je sens que tu vas t'étendre toi, je sais pas pourquoi. On commence avec Dragon's Crown.
Alors, Dragon's Crown, c'est le prochain jeu de VanillaWare. Et pour les incultes qui ne sauraient pas qui c'est VanillaWare, ce sont qui ont fait, entre autres, Odin Sphere sur PlayStation 2, Muramasa sur Wii, enfin voilà, que des
jeux magnifiques.
Qui sont pas vendus. Magnifiques,
qui sont pas vendus. Bah, oui, non, mais c'est vrai, faut être objectif. Hein. Sur PS2, c'est 80 000 exemplaires, à peu près la même chose à mon avis pour Muramasa sur Wii. Moi, je suis un fan de VanillaWare, en l'occurrence. Donc, ils vont sortir un jeu sur PS3 et PS Vita. Qui me fait beaucoup penser à, il a un petit air de Golden Axe, donc parce qu'il y aura les classes donc Amazon, guerrier, enfin voilà, sachant que les nanas, par contre nouveauté chez les VanillaWare, les nanas ont apparemment eu une protubérance au niveau de la poitrine,
les hormones marquée, de croissance.
Mais par rapport aux anciens jeux de chez eux, c'est assez nouveau, c'est la nouveauté. mais vraiment ça s'annonce comme un bon.
Ce sera un jeu deux fois mieux alors.
Donc je crois que c'est jusqu'à 5 personnages s'il me semble en coopératif. Donc ça s'annonce vachement bien. Moi en plus ça ressemble. Vous regardez la vidéo que je vous ai envoyée parce que ça ressemble vraiment à Golden Axe quoi je trouve. Enfin bref, c'est prometteur.
Donc tu voulais également parler de Bastion.
Alors en fait d'une manière générale je voulais parler des jeux du Summer of Arcade parce que bon on a déjà pas beaucoup de jeux Xbox cette année, alors si en plus on zappe les rares jeux intéressants c'est la merde. Je commençais donc avec Bastion, mais il faut savoir aussi qu'il y a Shadow Planet dont je vais parler ensuite, et il y aura aussi From Dust d'Exchaï, mais bon ça j'en on en a suffisamment parlé, je ne m'étendrai pas là-dessus. Bastion, qu'est-ce que c'est un jeu de rôle action assez spécial parce qu'en fait on commence sur une map, il n'y a rien autour de nous en fait. Et ce qui va se passer c'est que quand on va avancer, le décor va se créer au fur et à mesure devant nous. Et en même temps, en fonction de nos actions, il y aura un espèce de narrateur qui va nous accompagner tout au long de l'aventure, qui va dire ce qu'on fait, etc. Enfin ça avait l'air assez original. En plus la patte graphique est juste magnifique, mais c'est super beau. J'attends vraiment, vraiment, vraiment de voir ce que ça va donner, quoi.
Donc oui, désolé. Ensuite, un jeu que tu voulais parler, que j'arriverai jamais à prononcer, Insanely Twisted Shadow Planet.
Alors
avec un joli nom pareil, ça peut que être bien.
Alors c'est un jeu, j'ai du mal à définir ce que c'est parce que ça me fait penser à une espèce. Ça me fait penser à un shooter, mais en même temps ça fait aussi penser à une sorte d'école de fin avec un vaisseau spatial. Enfin voilà. Oh c'est une espèce de jeu d'aventure avec des phases de shoot. Dans un monde 2D, pareil, la patte graphique, allez voir la vidéo, mais aussi la bande son là. C'est vraiment c'est envoûtant quoi, c'est hypnotisant. Franchement j'attends beaucoup 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 de choses de ce jeu. C'est un jeu qui michoute aventure, de toute façon ça peut être que bien.
Voilà, donc on va conclure tes coups de cœur là dessus. Donc place à Mordrain, tu voulais parler de Tomb Raider, c'est fait, de Halo Anniversary, c'est fait, de Brother in Arms, c'est fait, mais il te reste Game of Thrones, ne t'inquiète pas.
Ça, j'allais dire en fait que j'avais placé tous mes coups de cœur dans le fil du podcast. Donc je vais parler de celui qui m'intéresse, mais qu'on a encore, dont on a encore rien vu. C'est Game of Thrones Genesis. Donc Game of Thrones, vous savez sans doute si vous suivez l'actualité série américaine, c'est une des énormes séries de HBO.
Je crois, attendez, messieurs, dames, avant d'être une série américaine, c'est surtout une série de romans cultes. Hein.
Exactement.
Je me sens un peu un culte, parce que je ne connais pas du tout.
Bon, bah alors, c'est une série littéraire qui s'appelle de George R.R. Martin, qui s'appelle en français Le Trône de Fer, et qui est absolument géniale. Et c'est vraiment une série fleuve avec des bouquins, des pavés de 1000 pages à chaque fois, et donc qui a été adaptée par HBO cette année. Donc dans une série, donc c'est une série de médiéval fantastique, enfin médiéval peut-être pas, mais du fantastique. Heroic fantasy plus, on va dire.
C'est du médiéval.
Voilà, donc médiéval. Merci pour ton aval, le tyran.
C'est même plus médiéval que l'heroic fantasy.
Donc médiéval.
La fantasy, c'est très, il y en a, mais c'est très abstrait, on va dire.
Ouais.
Mais pas sur le jeu.
Bon, voilà. Donc, j'en parlerai pour un point culture de la série et du livre. Mais en tout cas, on a vu un trailer donc qui annonce Game of Thrones Genesis. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que ça va nous faire vivre les l'action avant les livres ou avant la série, je ne sais pas. Et donc, a priori, ce serait un jeu de stratégie. Un jeu de stratégie, on n'en a pas eu énormément. On n'en a pas eu du tout lors de cette E3. Donc, et vu qu'on aime bien ça par ici, ce serait cool d'en avoir de temps en temps des jeux de stratégie. Donc, je pense que ça pourrait être sympa, surtout que la série Game of Thrones et la série littéraire est vraiment basée sur les manipulations de pouvoir et les jeux de... Et les jeux de pouvoir, je pense que si c'est un truc du genre Total War, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire là-dessus. Voilà.
D'accord, donc je vais passer à mes coups de cœur, mais là ça va être un peu triste. J'avais choisi SSX, c'est fait. Uncharted 3, c'est fait. Far Cry 3, c'est fait. Donc, pour
parler... Je crois que nos auditeurs te remercieront, en fait. Hein,
ne te reste plus qu'à te taire, en fait.
Non, parce que je voulais parler de Modern Warfare 3, qui est pas un de mes coups de cœur, mais je vais quand même en parler.
Mais on s'en fout de Modern Warfare 3.
Oh, et voilà ce troll, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même un bon jeu.
Non, je suis désolé, moi je dis ce que je pense, j'en ai rien à foutre de Modern Warfare 3, c'est...
Bon,
clairement.
Alors, coupe ton son et tu reviendras quand faudra dire au revoir. Allez, casse-toi. Donc... Modern Warfare 3, finalement, à ce qu'on en a vu, c'est toujours aussi moche, certes, mais finalement, on a toujours ce sens du spectaculaire et...
On a toujours ces couloirs.
Allez, vas-y, lâche-toi.
Je suis désolé, c'est un fait, hein. Ose me dire, c'est autre chose que des couloirs.
Mais... En même temps, dans des sous-marins, il n'y a pas beaucoup d'open space, hein. Mais, oui, ouais. C'est des couloirs, mais c'est toujours aussi spectaculaire, il y a toujours ce bon sens de la mise en scène. Et finalement, ça a l'air d'être un bon Modern Warfare. Il y a aussi Bioshock Infinite, qu'on n'aurait pas parlé énorme, qui a l'air vraiment super sympa avec son système de rail. Franchement, ça a l'air d'en mettre plein la gueule, et surtout que j'aime bien, parce qu'il fait toujours beau, en fait, vu que c'est au-dessus des nuages, bon, logique. Et il y a tout le temps ce petit côté, moi j'aime bien les jeux colorés, de toute façon j'avais dit pour Far Cry 3, et là c'est pareil, il y a toujours un beau ciel bleu et tout, enfin à part qu'on est en intérieur, ça a l'air vraiment super sympa, et finalement le digne héritier de la série Bioshock. Donc voilà, bon bah, j'en ai fini pour mon coup moyen sur Modern Warfare 3, et... le rail shooter c'est pour Modern Warfare 3, parce qu'il faut savoir qu'il y en a qui se permettent des vannes en texte en même temps.
c'est pas moi pourtant.
C'est mamie, allez mamie parle.
Moi, jeu de mots avec Bioshock, avec son système de rail, autant pour moi.
D'accord. Et... Donc voilà. Donc non, Bioshock n'est pas un rail shooter, mais un vrai FPS, hein, je vous rassure, il est même plutôt ouvert. Mais bref, je crois qu'on va conclure ce podcast interminable sur le bilan de E3. Finalement,
laisse ce pauvre mamie dire les jeux qu'il aime, non?
Non, c'est fait.
Je te signale qu'il l'a dit au début, alors écoute ce pauvre mamie.
Et le tyran qui ne suit plus, ça y est, c'est,
on l'a fait. J'en déconnais,
moi, c'est le mec qui a parlé de Batman et de Star Wars, bah, c'était mamie.
Ah ouais, d'accord, oui, c'est vrai, merde.
Donc, ben voilà, bon, je crois qu'on va conclure ce podcast, donc, qui était un
peu... J'en peux plus.
Mon dieu, embarquez-le. Donc finalement, un E3, je sais pas ce que vous en pensez, qui était bon, mais pas incroyable.
Bah, il y avait quand même des jeux, hein, la preuve.
Oui,
il était bon.
Beaucoup, beaucoup de valeurs sûres, quand même.
Oui, mais finalement, pas de grosses surprises.
Bah, en même temps, tout avait leaké, donc.
Bah non, les surprises, c'est plus à l'E3 qu'elles viennent, quoi. C'est...
Ouais.
Les développeurs indés.
Un, deux, trois. Pour faire court, on va passer temps, faut qu'on arrête, là, c'est trop. Donc. On vous dit à la semaine prochaine pour un tyran qui sera en santé mentale un peu plus recommandable.
Ok, oui, il faut qu'on se casse.
Non, ouais, faut qu'on coupe là. Bon, bah, on vous dit à bientôt pour un prochain podcast et salut.
Salut.